Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus avec nous cet après-midi. Je vais commencer par des excuses et des remerciements, puisque sur le programme, vous avez pu noter que Sabrina Sebaï, députée des Hauts-de-Seine, devait être avec nous. Elle fait partie des députés écologistes qui ont travaillé un peu la mise à jour de la doctrine des écologistes français sur les relations internationales. Malheureusement, Sabrina nous a appelé hier, elle avait une extinction de voix. Voilà, j'en suis désolé. C'est ce qui explique aussi une composition Boys Club de cette table ronde. Et du coup, les remerciements à David Cormand, député européen, qui a accepté de remplacer Sabrina au pied levé. Et puis, remerciements aussi à Thomas Pellerin-Carlin, député européen Place Publique, qui lui était prévu au programme et qui nous a fait le plaisir de venir. Donc voilà, on va se lancer dans ce temps d'échange qui est un temps qui vous allez le voir va croiser plusieurs échelles. La première d'entre elles étant géopolitique. On l'a intitulé Guerre et paix écolo. Quelle coopération internationale 10 ans après la COP21? Avec Thomas Pellerin-Carlin et David Cormand, l'idée est de faire tout simplement un point, et on peut considérer que c'est une première étape avant la table ronde de 19h. En tout cas, elle est connectée à la table ronde de 19h sur peut-on et doit-on faire une Europe décoloniale. Essayer de faire le point sur le contexte international qui, de manière évidente, a fondamentalement changé depuis les accords de Paris. Profondément changé depuis la dynamique de coopération et une espèce d'entraînement qui était à la fois un entraînement, une dynamique diplomatique, mais aussi une dynamique, en tout cas des sociétés civiles, sur les questions d'accélération de la transition écologique. Et avec Thomas et David, l'idée est d'avancer par étapes et d'essayer de donner, de se partager entre nous quelques éléments de réflexion sur 4 points. Le premier est tout simplement de répondre à la question du titre, c'est où en est-on à un mois de la prochaine COP, la COP30 à Belém, où en est-on de cette coopération internationale? Que peut-on encore en attendre? La deuxième, ce sera, puisque de manière évidente, on est dans un contexte qui est de moins en moins de coopération, est-ce qu'on est capable de caractériser le moment géopolitique dans lequel on est? Et ce contexte dans lequel, en tant qu'Européens, Français et partisans de la transformation écologique, on doit évoluer. Ça sera les 2 premières questions. Et je pense que dès cette étape-là, on pourra commencer à entrer en discussion avec vous, prendre des questions, pour ensuite enchaîner sur deux autres questions qui sont évidemment des questions connexes et qui sont la suite logique. C'est en l'état, quels sont encore les espaces de coopération, les perspectives notamment pour l'Union européenne. Et puis, quelles conséquences ce changement géopolitique a sur la capacité dans nos sociétés à mobiliser pour faire la transformation écologique? Quand on a l'impression qu'il n'y a plus de dynamique nationale, pourquoi nous faire des efforts? Et c'est à cette question-là, au fond, qu'on sera amené à essayer de répondre tous ensemble. Vous voyez, c'est pour ça, on monte de l'échelle géopolitique jusqu'à finalement vous, quand vous allez sonner chez votre voisin pour l'encourager à ne pas lâcher. Les deux sont fondamentalement connectés. Donc, David et Thomas, je vous pose déjà cette première question. À un mois de la COP de Belém, que peut-on encore attendre de cette coopération internationale, vous qui êtes de toute façon, voilà, qui suivez ça depuis le Parlement européen?
Ok. D'abord, bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Désolé pour ceux qui étaient à l'atelier IA entre midi et 13h. Vous allez encore devoir me subir 2 heures. Voilà, merci de m'avoir proposé effectivement de remplacer un peu au pied levé Sabrina, qui est députée nationale, donc enfin députée en France. Donc on va avoir, je pense, un prisme plus européen du coup, puisqu'on est tous les deux députés européens, mais c'est pas déconnant non plus par rapport au sujet dont on va parler. Par rapport à 10 ans après la COP, comment dire? L'idée de la COP et l'idée des COP, depuis qu'il y en a, c'était de dire comment on trouve un accord international au fond pour partager les limites, partager les ressources de façon équitable. C'était un peu ça la logique, notamment de la COP de Paris. Depuis 10 ans, par rapport à ça, j'ai envie de dire qu'on est passé du partage, du rapport aux limites, du partage des limites, à l'accaparement des limites. Je m'explique. C'est que ce qu'on voit apparaître avec notamment ce que fait Trump ou les Chinois, ou en partie d'ailleurs l'Union européenne, on pourra en parler dans des styles différents, mais etc., c'est de dire, plutôt que de gérer ces limites planétaires dans une forme d'effort de sobriété partagée, ce qui l'a emporté dans l'action politique, c'est de dire, on va essayer d'accaparer ce qui reste. Je serais tenté de vous dire, les écolos disent depuis longtemps, ce sont des fous, ceux qui pensent qu'une croissance infinie dans un monde fini, ça peut marcher. Et donc, nous, on se disait, bah, nous, on a compris que ce n'était pas possible, les autres n'ont pas compris. Si je voulais être provocateur, je dirais que d'une certaine façon, Trump a très bien compris qu'une croissance infinie dans un monde fini, ça ne marchait pas. Sauf que la conclusion qu'il en a tirée, ce n'est pas la décroissance solidaire, c'est l'accaparement de ce qui reste. Et une économie de rente extrêmement protectionniste sur son activité et complètement impérialiste sur, par rapport au monde. Et c'est le deuxième point, c'est que les COP, c'était une logique après la géopolitique des deux blocs, etc., de l'idéalisation de la le multilatéralisme. Or, depuis 10 ans, on est passé de l'espoir d'un multilatéralisme au retour des empires. Et donc, c'est l'empire américain, c'est l'empire chinois, et là-dedans, que fait l'Europe ? Qu'est-ce comment ? Autre élément, on est au moment de la COP il y a 10 ans, toujours dans l'illusion, qui pour nous, je pense, écolo a toujours été une illusion, en fait, la main invisible du marché, le libre-échange permettrait l'accès à la prospérité, l'évolution des démocraties, etc., à un revirement par rapport à ça, avec notamment ce que fait Trump, hein, de ce dont je parlais, le protectionnisme, etc. Il y a un autre enseignement pour moi, et c'est un momentum qui est comme ça entre 2015-2019, où je dirais il y a une forme de climatisation de l'écologie, où le prisme sur lequel on analysait l'action écolo, c'était le climat. Et je ne vais pas vous dire que la question climatique n'est pas centrale. Mais elle n'est pas suffisante. En fait, il n'y a pas qu'une limite planétaire. Il y en a d'autres. Et donc, quand on pense les questions de limite, il y a eu un surinvestissement sur l'aspect climat. Et ça a eu des conséquences dans les compromis politiques qui ont eu lieu au Parlement européen lors de la dernière mandature, entre 2019 et 2024, où au fond, il y a eu ce que j'appellerais l'illusion du remplacement, par exemple, de la dépendance aux fossiles, si on parle de la voiture, à la dépendance du tout électrique pour la bagnole. En gros, le compromis politique, ça a été, OK, on arrête avec le moteur thermique pour faire de l'électrique, mais c'est pour maintenir un parc automobile en taille équivalent. Et ça, ça ne marche pas. Et ça, c'était possible uniquement si on avait une lecture que climat du sujet. Si on a une lecture biodiversité, matériaux, métaux rares et tout ça, ben en fait, on voit bien que c'est en fait le compromis, ça a été de dire, OK, on change la façon de produire l'énergie, mais on ne change pas nos modes de vie. Et ça, ça se fait mécaniquement, et c'est ça qui est intéressant, avec le retour d'un rapport de domination, je dirais même de colonisation, des puissances soit occidentales installées, les États-Unis, l'Union européenne en partie, ou une grande puissance émergente comme la Chine, dans son rapport de prédateur par rapport au reste du monde. Et pour finir, par rapport au Sud global, pour moi, il y a une ambiguïté qui a toujours était d'ailleurs une ambiguïté récurrente dans les COP, même si on en parlait plus ou moins, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport au Sud global ? Parce qu'une fois qu'on dit que nous, les pays riches, on va être exemplaires, en réduisant notre consommation énergétique, ça ne suffit pas pour dire bah, « vous, faites pareil ». En fait, non seulement il faut être exemplaire, pour être crédible, mais il faut développer des moyens pour permettre un développement alternatif de ce qu'on appelle le Sud global. Or, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Il n'y a pas eu de fonds qui ont été... Et je conclurai là-dessus, c'est que la notion d'altermondialisme, elle a, d'une certaine façon, jamais été aussi moderne qu'aujourd'hui. En fait, les écolos ont toujours eu cette intuition, plus que cette intuition, cette analyse. Comment on a un rapport équilibré au monde quand on est puissant, au moment du retour des empires, cette question de comment l'Union européenne redéfinit son rapport au monde, et notamment au sud global, dans un rapport d'égalité, de coopération. C'est ça le contenu idéologique de l'altermondialisme. Plus que jamais, cette notion d'altermondialisme, c'est une pensée éminemment moderne, je pense.
Thomas, là, la COP, elle commence dans un mois, et si je dis pas de bêtises, pour la première fois depuis longtemps, les 27 pays de l'Union vont y aller sans position, en tout cas sans nouvelle position, sans nouvelle ambition. En tout cas, ça a été une discussion extrêmement dure. Ça raconte quoi du rapport de l'Union à ce nouvel état de fait international ?
Merci Kevin, merci à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là. C'est la première fois que je viens aux rencontres des pensées de l'écologie à Cluny. Et ça fait très plaisir d'être, j'espère, d'inaugurer une nouvelle tradition. Je suis tout à fait d'accord avec ce que David vient de dire. Je le résume souvent par une phrase qui est de dire qu'il faut qu'on fasse l'Europe dans un monde de brut. Il faut aussi qu'on fasse la transformation écologique dans un monde de brut. Et ces brutes, elles sont nombreuses. Il y a évidemment là, Xi Jinping, Trump, Poutine, et ça nous pose des tas de questions. Et fondamentalement, il faut qu'on trouve la manière de le faire, puisque nous, Européens, on n'a pas le pouvoir, pour l'instant en tout cas à court terme, de faire en sorte que Trump, Xi Jinping ou Poutine, ou les autres, hein, je pourrais mentionner Javier Milei, enfin, le monde ne demande pas de brut en ce moment, ne soit plus dans cette attitude-là. Je dis un mot sur la question des empires et la question coloniale, après je reviendrai plus sur l'Union européenne directement. Cette question coloniale, cette question des empires, c'est un grand impensé de la culture européenne moderne. Et c'est un impensé même dans le rapport à l'Europe elle-même. Donc là, tout ce que je vais vous dire, c'est juste, je synthétise une thèse d'historien qui a été d'abord développée par, il va me revenir, et ensuite ça a été popularisé par Tim Snyder. Et c'est un des éléments, enfin, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, vous pensez qu'ils s'opposent sur la question européenne. Et ils s'opposent effectivement sur la question européenne, mais ils partent tous les deux du même présupposé, qui est qu'avant l'Europe, la France était un État-nation. Or, ce présupposé est faux. Vous avez peut-être entendu comme moi, en tout cas si vous avez 35 ans au moins, on a eu les mêmes cours d'histoire au collège et au lycée, l'histoire de l'Europe telle que racontée à nos petits-enfants, c'est un roman, ce qui est problématique, et qui est une sorte de fiction qui dit que nous les Européens, on s'est fait la guerre pendant très très longtemps, ça c'est vrai, et en 1945, on a compris un truc génial, parce qu'on est supérieur au reste de l'humanité, on a compris que la guerre c'était mal et que la paix c'était bien. Et on a les pères fondateurs qui ont vu la lumière, et on a Saint Robert Schuman, Saint Konrad Adenauer, Saint Jean Monnet, qui nous ont permis de voir la lumière et de faire l'Europe. Ce truc-là, c'est un roman. Pourquoi est-ce que c'est un roman ? Parce que les gens qui font l'Europe, pour les Français en tout cas, c'est aussi ceux qui font la guerre en Indochine. C'est aussi ceux qui font la guerre d'Algérie. C'est les mêmes personnes, au même moment, qui font les deux. Parce qu'en fait, la France, avant l'Union européenne, c'était pas un État-nation. C'était la métropole d'un empire. Et fondamentalement, tous les États européens, ils tombent dans trois catégories. Toutes les nations européennes d'aujourd'hui étaient soit des métropoles d'empire, c'est le cas de la France, de la Belgique, les Pays-Bas. Enfin, pour vous, les Néerlandais, vous pensez que c'est les gens gentils qui sont à peu près de leur sous. La guerre des Pays-Bas ou en Indonésie, c'est des centaines de milliers de morts, en 48-49. Le deuxième type de nation, c'est des nations qui étaient des colonies d'empire. Souvent dans la pensée française, on pense que la colonisation, ça se fait en dehors de l'Europe. Ça se fait aussi en dehors de l'Europe, mais ça se fait aussi en Europe. L'Irlande a été colonisée par l'Empire britannique. La famine que connaissent les Irlandais au XIXe siècle est très similaire des famines que vont connaître les autres parties de l'Empire colonial britannique, notamment le Bangladesh, à des périodes similaires ou un peu plus tard. Et la troisième catégorie, c'est le seul État qui est en dehors de tout ça, c'est la Suisse. C'est le seul État qui, au cours des 500 dernières années, n'a été ni métropole d'empire, ni colonisé par un empire, et qui n'est pas membre de l'Union européenne, effectivement, et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce que l'Union européenne, c'est l'endroit dans lequel les nations vont après l'empire. Parce que fondamentalement, en tant que nation, prenez la nation française ou la nation allemande, en termes de population, on est aussi grand que la moitié d'une province chinoise. Et il y a des brutes autour de nous. Et donc, fondamentalement, on a trois options historiques. La première, c'est de dire, après la chute de l'Empire, la réponse est plus d'Empire. C'est le choix de Vladimir Poutine. La réponse à l'effondrement de l'Empire russe, c'est plus d'Empire russe. C'est pour ça qu'il fait la guerre depuis 2006-2008, selon le moment où vous démarrez la guerre. La deuxième option, c'est l'option de « on va devenir le vassal d'une des grandes puissances ». C'est ce que j'appellerais l'option coréenne ou l'option taïwanaise, où Taïwan et la Corée du Sud, clairement, ont choisi d'être des vassaux des États-Unis et ne peuvent pas mener une politique indépendante des États-Unis parce que sinon, ils disparaissent de la carte. Et nous, Européens, on a une troisième option qui est d'être du coup une nation libre dans une forme de fédération européenne qu'on est en train de construire. Ça me semble un point de départ intéressant pour comprendre du coup le fait que la manière dont Trump nous voit, si vous me permettez cette métaphore, Trump nous voit aujourd'hui, nous Européens, comme le roi des Belges, Léopold II, au XIXe siècle, voyait le Congo. Du point de vue de Trump, Trump a une pensée impériale. Et ce qui est nouveau pour nous, ce n'est pas de vivre dans un monde d'empire, c'est que pour la première fois de l'histoire française, c'est nous la colonie. Qu'est-ce qui se passait au XIXe siècle? Il se passait notamment la signature de ce qu'on appelle des traités inégaux. Les traités inégaux, c'est des traités commerciaux où vous dites « Moi, je vais garder plein de droits de douane sur les produits que la colonie risque d'exporter chez moi. Par contre, je veux zéro droit de douane dans la colonie pour les produits que la métropole va exporter dans la colonie. Et par ailleurs, je vais vous obliger à acheter des trucs qui sont mauvais pour vous et qui, par ailleurs, coûtent hyper cher. » Donc, à l'époque, au XIXe siècle, c'était les Britanniques qui forçaient les Chinois à acheter de l'opium. Maintenant, c'est Trump qui nous force à acheter du gaz de schiste. Et du gaz de schiste dans des quantités qui sont complètement divorcées de la réalité de la dépendance énergétique européenne. Donc, on est dans ce contexte-là, et je veux vraiment remettre ce contexte historique, parce que ce contexte historique, on n'en discute pas au Parlement européen. Et au sein du Parlement européen, on a un bon 25 à 30% du Parlement européen qui adore Trump. Avec David, on était cette semaine à Strasbourg, parce qu'on fait partie des députés européens qui sont présents. Et à un moment où, je ne sais plus si Bardella était là ou il n'était pas là, à ce moment-là, il y a l'extrême droite italienne de Meloni qui prend la parole et qui se félicite du cessez-le-feu à venir à Gaza, ce qui est une très bonne chose. Mais le premier mot qu'ils disent, c'est « Et du coup, nous applaudissons Donald Trump. » Ouais, Trump l'a fait. Et il y a un tiers, à peu près un tiers, du Parlement européen qui applaudit Donald Trump. Très très compliqué de faire l'Europe dans un monde de brutes, surtout quand il y a un tiers du Parlement qui pense que la brute, en fait, c'est un modèle. Aujourd'hui, et j'arrive du coup sur la loi européenne sur le climat et l'objectif climatique que j'aimerais bien que l'Union européenne, enfin que nous aimerions bien que l'Union européenne adopte avant la COP à Belém dans un mois. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé déjà que la Commission européenne a traîné des pieds. Qu'une partie de la droite européenne sait que désormais, elle n'a plus besoin ni de David, ni de moi, ni même des macronistes pour avoir une majorité. Parce qu'il y a une majorité aujourd'hui, une majorité mathématique, avec une alliance entre la droite européenne et les trois groupes d'extrême droite. Donc pour le dire en termes français, Retailleau, Maréchal, Bardella, Zemmour, au Parlement européen, ça vous fait une majorité. Toute petite majorité. Ils ont 375 voix et il faut 361 voix pour avoir une majorité. Mais parfois, ça passe. Et on a vécu des votes hyper serrés, notamment sur la loi européenne contre l'importation de produits issus de la déforestation, où on a quasiment perdu tous les votes, quasiment tous, à 5-10 voix près. Et il y a un vote qu'on n'a pas perdu parce que ça a été égalité 354 contre 354. D'où l'intérêt de siéger. D'où l'intérêt aussi de prendre la vitamine D à l'arrivée de l'automne pour ne pas être malade. Voilà. La Commission européenne a traîné des pieds. Moi, j'ai entendu même en privé un commissaire européen qui est pourtant pas de droite, qui est plutôt centriste, dire « Oh, mais vous savez, un objectif climat à l'horizon 2040, on n'en a pas besoin. » Et finalement, la proposition a été faite par la Commission européenne avant l'été. Le texte arrive au Parlement, et au Parlement, une des premières choses qu'on doit décider, c'est quel groupe politique va être rapporteur sur le texte. On va prendre le texte et va porter la voix du Parlement. Et là, je ne sais toujours pas ce qui s'est exactement passé, mais à la fin, c'est le groupe de Bardella qui a gagné. Et ils ont nommé Andrei Knotek, qui est un Tchèque d'extrême droite, qui est un proche de Andrei Babich, qui vient de remporter les élections en Tchéquie. Et bon, ce mec-là, je ne le porte pas dans mon cœur, clairement. Pour l'anecdote, quand vous devenez député européen, vous avez une formation anti-harcèlement qui dure 3 heures. Il était juste devant moi, et j'ai bien compris qu'il ne comprenait pas l'intérêt de la formation. Mais au-delà de ça, c'est un négationniste de l'existence du dérèglement climatique. Et le rapport qu'il nous a proposé de débattre en commission environnement du Parlement européen, au moins il ne s'est pas dissimulé, il n'a pas avancé masqué. Il a dit « Ouais, mais les scientifiques ne sont pas sûrs, ils ne sont pas tous d'accord sur la question du dérèglement climatique. Voilà. » Et il proposait du coup qu'on rejette la proposition de la commission pour qu'il n'y ait pas d'objectif 2040. En un sens, il a été tellement stupide que ça nous a servi. Parce que du coup, ça rendait très compliqué pour l'intégralité de la droite européenne de se mettre avec un mec qui était aussi caricatural. S'il avait été un peu plus fin, on serait en une situation encore plus compliquée que celle où on est. Là-dessus, s'est rajouté un autre génie qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a décidé de prendre en otage la loi européenne sur le climat pour imposer la suppression de la directive européenne sur les énergies renouvelables pour la remplacer par une directive européenne sur les énergies décarbonées en incluant le nucléaire. Pour être très clair, moi je suis modérément pro-nucléaire, ça va être une des différences que j'ai avec David, une des rares différences que je vais avoir sur le fond des politiques publiques, mais jamais de la vie faut prendre en otage une loi européenne sur le climat, j'ai envie de dire pour quoi que ce soit, et a fortiori pour un sujet comme ça sur lequel il n'y a pas urgence à décider dans 2 semaines. Et je ne sais même pas d'ailleurs si ce qu'il veut est une bonne idée par ailleurs. Donc il a pris ça en otage, ça va être discuté au Conseil européen la semaine prochaine si je me souviens bien. Et le problème c'est que quand c'est discuté au Conseil européen, donc c'est là où il y a les chefs d'État et le gouvernement, et bien la règle c'est l'unanimité. Donc en faisant ça, Emmanuel Macron il a donné un droit de veto à Viktor Orban, qui est à la fois pro-Poutine et pro-Xi Jinping et pro-Trump, comme ça il cumule.
En principe, c'est défini entre les ministres de l'environnement. Macron a imposé, non mais ce que tu dis, a imposé que ce soit les chefs d'État. Et quand c'est les ministres, c'est majorité qualifiée. Donc on pouvait avoir la majorité qualifiée. Et comme il a décidé que c'était en conseil, j'ai mis du temps à comprendre ça, c'est pour ça que je l'explique.
C'est tout à fait le cas. En fait, là-dessus, il aurait juste fallu que Macron ne fasse rien. S'il n'avait rien fait, ça aurait été Conseil des ministres, majorité qualifiée, en gros c'est une majorité à 55%, on va dire, pour simplifier. La personne qui portait la voix de la France là-dessus, c'est la ministre Agnès Pannier-Runacher, qui y a des limites dans son action, mais sur ça, elle a compris les choses. Et voilà. Côté Parlement européen, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire une alliance des forces démocratiques pro-européennes, donc les sociaux-démocrates. Alors je commence par nous parce qu'on est le plus à gauche dans la géographie du Parlement européen, c'est comme ça que c'est fait. Les Verts, les centristes et la droite européenne, sachant que sur ça, la droite européenne a nommé, parce que les personnes sont importantes, hein, la droite européenne a nommé rapporteur fictif, peu importe, une femme politique de la droite portugaise qui s'appelle Lídia Pereira, qui a la trentaine, qui est économiste de formation, qui est catholique par ailleurs, qui est pro-renouvelable, qui a lu l'encyclique Laudato Si du pape François, enfin une droite qui n'existe plus vraiment en France, qui est une droite intelligente, et avec qui on peut travailler, même si on a plein de désaccords sur plein de manières d'agir pour le climat. Côté vert, les Verts européens ont nommé Lena Schilling, qui est une excellente députée européenne autrichienne. En gros, c'est la Greta Thunberg autrichienne, pour simplifier au maximum. Et nous, sociaux-démocrates, on a nommé Javi López, qui est un camarade socialiste espagnol, sachant que les socialistes espagnols sont très engagés sur la question climatique depuis assez longtemps. Donc là, on continue à mener la bataille. On ne va pas se mentir, c'est compliqué. J'espère qu'on n'arrivera pas les mains vides à Belém, à la COP, nous, Européens. Et un des éléments qu'on peut faire, à la fois, et c'est ce qu'on fait à Place Publique, et c'est ce que je crois aussi que les écolos font dans le contexte politique français, c'est de, parmi tous les sujets qu'il faut régler pour régler la crise politique actuelle, il y a évidemment des enjeux fondamentaux comme la réforme des retraites, etc. Mais si en plus on peut, si je puis dire, s'appuyer sur ce moment d'incertitude pour dire que quand même ce serait bien si la position de la France n'était pas décidée par Emmanuel Macron tout seul, et si jamais la France pouvait juste en fait renouer avec la tradition, hein, La tradition diplomatique de la France sur le climat a été une très bonne tradition. Donc en gros, on reste dans la lignée de Laurence Tubiana, qui a été une très très bonne tradition diplomatique française depuis 20 ans. Et j'espère que du chaos politique actuel pourra au moins sortir cette micro bonne nouvelle pour l'Europe et pour le reste du monde.
Merci Thomas et David pour cette explication très précise des coulisses en cours depuis le Parlement européen. Ça a jeté un froid de se rendre compte que l'extrême droite et la droite gouvernaient aussi à Bruxelles, mais merci que, pardon. Mais justement, du coup, la question qui... Alors, si je reviens à ce contexte, et vous l'avez dit, c'est le retour des empires, c'est l'Europe dans un monde de brut. Qu'est-ce que ça change dans les marges de manœuvre de l'Union et de nos pays pour quand même faire avancer la transformation écologique en général. Voilà. Je ne sais pas si...
Je peux commencer sur ça. Il y a, donc le mandat précédent, 2019-2024, il était marqué par ce que à Bruxelles, ils ont beaucoup appelé le Green Deal, le pacte vert européen. Pour le dire autrement, c'est mettre... j'allais dire l'écologie, plus mettre le climat comme priorité numéro une de l'Union européenne pendant cette période-là. Pourquoi est-ce que ça a été fait ? Parce qu'il y avait des jeunes qui manifestaient pour le climat, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, les jeunes, ils manifestent aussi, ils ne manifestent plus pour le climat, ils manifestent pour d'autres choses. Mais du coup, le fait que le climat ne soit plus mis à l'avant, mis à l'agenda par des centaines de milliers, des millions de jeunes qui manifestent pour le climat, bah, ça a aussi un impact politique. Le mot pacte vert européen, il a quasiment disparu du vocabulaire à Bruxelles. Vous savez toujours, quand il y a des gens de droite, ils me disent qu'il y a une cancel culture et qui après, en fait, pratiquent eux-mêmes la cancel culture, puisqu'ils ont même renommé une des unités de la Commission européenne pour enlever le mot pacte vert. Bon, voilà, admettons. Le nouveau mot, le nouveau slogan, c'est le pacte pour une industrie propre. Donc pour le dire en anglais, on est passé du European Green Deal au Clean Industrial Deal, le pacte pour une industrie propre. Et moi, au début, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et j'ai eu un moment Eureka il y a un mois. J'ai mis du temps, je suis un peu loin à comprendre, il faut m'expliquer longtemps. Parce que la seule activité professionnelle que je continue à avoir en dehors de mon mandat de député européen, c'est que je continue à donner un cours à Sciences Po Paris. Et là, du coup, je devais dire comment est-ce que j'expliquais le Clean Industrial Deal à mes élèves. Et du coup, j'ai dû remettre ça dans mon cours, c'est-à-dire que je retrace l'histoire des politiques européennes de l'énergie et du climat depuis 1950. Et je me dis, en fait, je ne sais pas encore ce qu'est le Clean Industrial Deal, ce pacte pour l'industrie propre. Est-ce que c'est le pacte vert européen 2.0 ? C'est-à-dire, on continue, on va plus loin, on change un peu les mots pour rassurer la droite, mais les politiques publiques restent les mêmes. Ça, c'est une option possible. Une deuxième option, c'est de dire, non, en fait, c'est le grand remplacement. C'est le grand remplacement du pacte vert par le pacte pour une industrie propre. Et d'ailleurs, si on pouvait enlever le mot propre ensuite, ce serait encore mieux. Comme ça, on va juste parler d'industrie. Et honnêtement, là, je parle plus en tant qu'enseignant comme politique. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Pour redevenir un homme politique 3 secondes, je sais ce que je préfère, clairement. Là-dessus, on ne va pas se mentir, si nous, qui voulons que l'Europe mène une politique de transformation écologique, et je dis nous parce que ça va heureusement bien au-delà d'un seul groupe politique, c'est partagé par beaucoup de gens dans beaucoup de groupes politiques, même s'il y en a un qui est plus historiquement légitime que nous sur ça, si on veut avancer sur ça, il faut qu'on réussisse à parler d'autre chose que de la protection de l'environnement ou de l'écologie ou du climat. Parce que aujourd'hui, parler de ça, ça peut même être contre-productif. J'avais un échange avec un président de département, un des départements normands, un homme de centre-droit tout à fait respectable. Et à un moment, je me présente, c'est la première fois qu'on se parle, et à un moment, je dis le mot écologie, et il me coupe la parole, il dit « Ah, moi, l'écologie, j'aime pas. » J'étais bien interloqué, parce que c'est un mec de droite, mais c'est en Normandie, on a une droite plutôt modérée, plutôt intelligente, avec aussi des éléments écolos. Non, franchement, ça va en Normandie. Comparé à PACA, on va pas se plaindre. Et du coup, je fais OK, pourquoi ? Il me dit Sandrine Rousseau. Je fais OK, d'accord. Mais c'est pas le sujet de notre discussion aujourd'hui, monsieur le président du département. Et je laisse parler. Et du coup, je fais Oui, donc en fait, vous êtes pour la protection de l'environnement. Il fait oui, oui. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait réfléchir, mais c'est vrai que spontanément, pour moi, je lui dis écologie et je dis protection de l'environnement, c'est des synonymes quasiment dans ma bouche. Mais pour lui, écologie, ça renvoie à un truc, enfin, ça renvoie à une forme de peur, le mot, hein. Mais protection de l'environnement, ça lui va très bien. Donc pour avancer, même ça au Parlement européen, ça suffit pas. Et donc du coup, on revient sur deux des piliers, mais historiques, hein, deux des manières de faire de l'écologie sans trop le dire, c'est de dire, bah, c'est quand même bon pour l'économie. Et ça, c'est le côté nouveau, c'est une priorité en termes de sécurité et de défense. Et ça, c'est ma théorie du changement au niveau du Parlement européen. Moi, c'est ce que je porte depuis un an. J'investis beaucoup de capital politique sur ça. Je le fais d'autant plus que j'ai eu l'honneur de servir comme officier de réserve de l'armée de terre pendant 6 ans. Et donc, du coup, les attaques des Russes contre l'armée française, bah, je connais un peu, malheureusement. Et du coup, moi, je me suis engagé sur deux textes pour l'instant dans ce mandat-là, où je suis le chef des sociodémocrates, et c'est toujours lié au pétrole et au gaz russe. Si vous êtes intéressé par la version longue de ma pensée, j'ai publié une tribune dans le journal Le Monde début septembre sur ça, pour vous faire la version courte. Comment est-ce qu'on gagne la guerre que Poutine nous a déclarée ? Tout le monde parle d'aide militaire à l'Ukraine. Certains disent même qu'il faut envoyer nos avions de combat pour sécuriser l'ouest de l'Ukraine de manière à ce que les missiles russes et les drones russes soient détruits par l'armée française, l'armée polonaise, l'armée britannique, au lieu de tomber sur des civils ukrainiens ou de finir par tomber sur des civils en Pologne, puisque c'est quand même ce qu'on a eu les dernières semaines. Ils parlent de murs de drones, etc., de 3,5 ou 5% de dépenses dans le PIB. Tout ça sont des débats qu'il faut qu'on ait. Mais ça, ce n'est pas une théorie de la victoire. Ça, c'est une théorie de la non-défaite. Puisque personne ne pense qu'on va envoyer les chars français sur Moscou. Comment est-ce qu'on peut gagner cette guerre sans passer par des voies militaires, puisque ce serait très, très compliqué. Une des manières de gagner la guerre, d'obtenir la victoire, c'est de comprendre quel est le système adverse. Quel est ce qu'on appelle dans les études stratégiques le centre de gravité, si vous voulez la clé de voûte. Le truc, si vous enlevez, tout le système adverse tombe. La Russie, c'est très simple en fait. La Russie actuelle, le régime russe, investit 140 milliards d'euros par an dans l'armée. Donc gardez ce chiffre en tête, 140. Les revenus pétroliers et gaziers russes, c'est 250 milliards d'euros par an. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a même pas besoin de faire la transformation écologique à 100% pour transformer la Russie en un État qui n'est juste plus capable de financer ses guerres.
250 juste en provenance de l'Union européenne.
Non, ça c'est la vente de pétrole et de gaz russe dans le monde entier. Une partie vers l'Europe, une partie vers le reste du monde. Et donc du coup, pour résumer ma théorie de la victoire en une punchline, puisqu'il paraît qu'il faut faire ça quand on est un homme politique, Poutine n'est pas Superman, mais la transition verte, c'est sa kryptonite. Si on vivait déjà dans un monde où on avait fait tous les efforts en termes de sobriété, d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable qu'on doit faire pour les questions climatiques, et ben on vivrait dans un monde dans lequel le prix du baril il sera à 10$ et le prix du gaz il sera à 5$ du mégawattheure, puisque à part des usages hyper spécifiques, on n'en aurait quasiment plus besoin. Et ce monde-là, c'est un monde où la Russie de Poutine, ça devient la Corée du Nord. C'est-à-dire un pays hyper désagréable à vivre, clairement, mais un pays qui n'est plus une menace pour ses voisins, autrement que de manière rhétorique. Et donc, là-dessus, on a, si vous voulez, un heureux hasard. Et je termine sur ça. Moi, j'appelle à ce qu'il y ait un rapprochement entre les milieux écologiques pris au sens large, hein, j'inclus les associations, la société civile, et les milieux de défense et de sécurité, et les milieux militaires. Et il faut que... En tout cas, moi, j'essaie de travailler à ce rapprochement-là, et à le faire au niveau européen. Pour le résumer en une phrase... Il paraît qu'il y a une femme politique qui un jour a dit que c'est la mission qui détermine la coalition, c'est ça ? Notre mission, c'est en même temps de faire avancer la révolution énergétique, écologique et industrielle et de vaincre Poutine. Et la coalition, c'est à la fois la coalition écolo existante qui, je vais être caricatural dans mes propos, hein, mais c'est plus une coalition d'Europe de l'Ouest, et c'est une coalition qui est plus féminine, qui est plus jeune, plus urbaine, plus à gauche, et qui va s'allier du coup avec ceux qui veulent vraiment gagner la guerre contre Poutine, et qui sont plutôt d'Europe de l'Est, plus masculins, plus vieux, plus ruraux, plus à droite. Et si on réussit dans les mois et les années à venir, à comprendre qu'une éolienne terrestre installée dans le Calvados, c'est bon pour la transformation écologique et c'est bon aussi pour la souveraineté énergétique et donc pour vaincre Poutine, et bien là, on aura une coalition qui sera assez imbattable et qui nous permettra, j'espère, de faire au moins une décennie d'avancée dans la transformation écologique de nos modes de vie et de la société européenne.
Merci Thomas d'avoir présenté ta théorie du changement. Donc la version longue, c'est sur le monde, c'est ça? D'accord. Et David, question générale sur les marges de manœuvre. Quand la guerre s'est déclenchée en Ukraine, pour le coup, moi j'ai le souvenir du groupe Vert qui tout de suite sort les slogans, qui était pas mal aussi, isole ta maison, isole Poutine. Ça fait finalement déjà, la guerre elle a commencé il y a 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Enfin, la dernière invasion. Comment toi tu vois dans ce contexte-là les marges de manœuvre pour faire avancer la transition et nos sujets?
Alors ouais, d'abord, il y a une première chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je suis assez effaré sur une forme d'intériorisation de la faiblesse européenne par nos dirigeants. Je crois que tu parlais, Thomas, des sanctions, de comment on fait pour que la Russie arrête d'avoir des recettes qu'on finance nous. Je crois qu'on est au 18e ou 19e plan de sanctions depuis donc ces 3 ans. Alors en général, quand on en arrive au 19e plan, c'est que ça n'a pas bien marché jusque-là. C'est qu'en fait, si votre truc était efficace, on s'arrête au premier. Donc là, il y a une forme de tâtonnement, de compromis qui essaye d'être trouvé, alors que par rapport à l'agression qui est subie, pour moi, il y a une intériorisation de la faiblesse de la réaction qui me paraît saisissante. Sur la question de nos dépendances, parce que la question ukrainienne, elle est centrale, mais pour moi, elle est révélatrice. Enfin, il ne faut pas être trop européocentré par rapport à ça. Quand on parlait tout à l'heure du retour des empires, il n'y a pas que celui-là. Tu parlais de la Corée du Sud, on peut parler d'Amérique du Sud, ce qui se passe en Afrique. Enfin, en fait, il n'y a pas que la Russie. D'ailleurs, dans les empires, la Russie fait partie des nains. Hein, par rapport à la Chine ou aux États-Unis, c'est quasiment un vassal, d'ailleurs, la Russie, si je voulais un peu pousser le pompon. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent à nous menacer parce qu'ils ont complètement concentré dans une économie de guerre. C'est 45, je ne sais plus, % de leur budget, peu importe, enfin, le PIB qui est concentré là-dedans, mais bon, voilà, c'est comme ça que le truc subsiste. Mais on paye par rapport à la Russie des dépendances que nous, l'Union européenne, avons consenti à maintenir. Et je me rappelle, il y a longtemps, du débat sur Nord Stream. Hein, Nord Stream 1, ça passait par l'Ukraine. Et les Verts en Allemagne, qui sont pas toujours parfaitement inspirés, mais enfin là-dessus, ils avaient raison, avaient milité dès l'origine, ils étaient tout seuls d'ailleurs, dans le champ politique allemand, à dire on veut pas de Nord Stream 2. C'était quoi Nord Stream 2? C'était le gazoduc qui passait directement de la Russie à l'Allemagne, sans passer par la case Ukraine. Et ça, ça dit quelque chose de l'espèce de confiance aveugle de la principale puissance économique européenne par rapport à Poutine. Et je me rappelle avoir vu une image, c'était évidemment avant l'invasion, où Poutine était invité en Allemagne et avec des chefs d'entreprise allemands, etc., et les chefs d'entreprise, ils avaient commencé déjà un peu la transition. Et Poutine dit, mais c'est très bien, vous faites votre transition. Si vous voulez faire des chaudières à bois, il y a aussi beaucoup de forêts en Russie. Et tout le monde ricanait en bon voisinage avec Vladimir Poutine, dont enfin, il n'y avait pas besoin d'être grand clair pour comprendre que le type était potentiellement approximatif sur le rapport aux frontières, sur les droits humains et sur la sympathie qu'il nous vouait. Enfin, et ça, il y a quand même quelque chose dans notre... et qu'on continue à entretenir. Parce que quand on a parlé, on fait le truc de von der Leyen qui va en Écosse, sur le Golfe, avec Trump, et qu'elle accepte le deal inique des 15% versus zéro, mais en plus, qui dit « je m'engage à vous acheter », ce qu'on ne fera pas, hein, parce que je ne sais plus quel point, les 750 milliards sur machin de gaz de schiste pourri et de je ne sais pas quoi. En fait, pour se sortir d'une dépendance, on en construit une nouvelle. Et donc c'est ça qui est fou, c'est qu'on n'a rien appris. Et ça me rend dingue parce que, et c'est le message que je veux vous donner, l'Union européenne est puissante. nous ne sommes pas faibles. Un, nous sommes le premier marché du monde. Deux, c'est vrai, on a beaucoup désindustrialisé. Mais enfin, on a encore des industries. On a des universités, des enseignements de très haut niveau. On a des ressources agricoles qui sont loin d'être négligeables. Et on a une capacité, alors pour des raisons d'ailleurs bonnes ou mauvaises, de prescription et d'inspiration par rapport au monde, qui n'est quand même pas complètement négligeable. Et donc, il y a moyen d'incarner, dans ce moment de retour des empires, un imaginaire tout à fait différent. Ça va demander énormément d'efforts, et pas que par rapport à la Russie. C'est pour ça que l'Ukraine, encore une fois, est une question centrale, parce qu'elle est centrale en elle-même, parce qu'elle nous menace, j'ai envie de dire, physiquement, directement. Et surtout, elle a révélé autre chose qui est sidérant, et qui est presque au moins aussi important que l'agression russe en Ukraine, qui est le retournement d'alliance de Trump. Ce moment à Munich où le vice-président se pointe pour dire, mais texto, en gros, hein, ce sur quoi reposait notre solidarité était un modèle de démocratie libérale. Ce n'est plus le projet des États-Unis. Sous-entendu, ce n'est plus là-dessus que nous serons solidaires. En fait, c'est un retournement de l'équilibre du monde par rapport auquel on a une Europe qui prend ça dans la tête et on va quand même en Écosse discuter avec le gars, en plus 750 milliards pour le gaz de schiste et 600 milliards pour acheter notamment des armes. Enfin, aujourd'hui, on a pu être accueilli par, à l'époque où c'était Bayrou, le Premier ministre. Je pense que dans les mois qui vont venir, ça va être très compliqué de se repérer par rapport au Premier ministre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'avais des repères du temps, dire ouais, c'était l'époque de Jospin, c'était l'époque de Fillon. Là, quand même, ça va commencer à être compliqué. Bref, donc là, c'était le moment Bayrou, bon, je m'en rappelle parce qu'il était là. Et on était accueillis d'ailleurs par Le Cornu, ministre de la Défense. Donc, on avait deux premiers ministres, on ne savait pas que l'autre le deviendrait. Bon, bref. Et c'était avec tous les présidents de groupes parlementaires, etc., pour dire, bah voilà, c'était un peu après ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait, retournement d'alliance. Et c'était hyper intéressant, parce qu'il y a des choses pour lesquelles c'était pas clair. Toi, tu dois connaître ça, parce que la formation militaire. Mais en fait, il y avait des généraux d'état-major français qui disaient, en fait, quand on parle de l'OTAN et tous ces trucs-là, on peut se dire, ben, on en sort, etc. Le problème, c'est que pour la grande majorité des pays européens qui sont dotés d'armes, d'armement, d'armées, ils n'ont pas la compétence en interne pour déployer militairement ces troupes. C'est même pas le problème d'un arsenal. Il y a un problème d'armement, les drones, machin, pour en parler. Mais c'est qu'ils ont... En fait, d'ailleurs, tu me démentiras si je me trompe, mais si on additionne les budgets de l'armée des 27, déjà, c'est supérieur à la Russie. Donc, en fait, on peut dire, oui, il y a ça manque, il faut compléter, mais en fait, il n'y a pas un problème de volume d'argent, peut-être à la marge, mais c'est pas ça qui est central, vraiment. C'est comment on serait en mesure de déployer des troupes. Et donc la France a maintenu une armée, donc on a quand même qu'on a maintenu à minima, mais quand même, on a su maintenir ces trucs-là. Mais il y avait la moitié des pays européens dotés d'armes qui allaient voir les généraux français pour dire, dans le cas où on doit déployer, s'il n'y a pas les... Là, je crois que d'ailleurs, aujourd'hui, le général chef de l'OTAN de l'Europe, c'est un Américain. Je crois, aujourd'hui. Ça a toujours... c'est toujours le cas. Alors que Trump vient de convoquer tous les généraux du monde américain pour dire « va falloir préparer à faire la guerre civile chez moi ». Enfin, j'exagère, mais c'est quasiment ce que le mec leur a dit. Sauf que comment on fait pour, là, demain, former des généraux en capacité de nous déployer, etc. Après, il y a la question de l'armement et de l'arsenal en lui-même. Alors, petite parenthèse, le mur anti-drone. Moi, je n'en peux plus de ces conneries-là. Mais en plus, nous, on est français, on se rappelle de la ligne Maginot. Donc, en fait... En général, ces machins-là ne marchent pas. Voilà. Donc, en fait, et pire, ça donne l'illusion de sécurité. C'est ça le pire, d'ailleurs. Alors qu'il n'y en a pas. Donc, oui, il y a une question fondamentale de comment on se défend par rapport à des drones. Mais, en fait, il y a des gens qui sont en train de déployer un savoir-faire, je pense, unique au monde pour résister à des attaques de drones. Ben, il s'appelle l'Ukraine. Et donc, y compris dans l'aide à l'Ukraine, l'idée de, entre guillemets, prendre des parts dans les entreprises ukrainiennes qui sont en train de déployer un savoir-faire pour, par rapport au truc drone, mais surtout anti-drone, en fait, il y a des capacités, des voies à trouver, plus que le récit qu'on est en train de nous vendre, et moi qui me pose énormément de problèmes, de « rearm Europe hein, ». C'est le concept... ça, c'est une politique de réarmement. C'est pas une politique de défense. C'est pas la même chose. Je dis pas que quand on veut faire une politique de défense, faut pas d'armes. Et donc, moi, j'aime bien la doctrine... Mais je vois qu'il y a Géraldine Delbos-Corfet là-bas, ils ont travaillé ça avec la Fédération des fondations de l'écologie politique européenne. Moi, j'aime bien le... Et c'est Cyrielle Chatelain avec le groupe à l'Assemblée nationale ont développé... c'est la doctrine, alors c'est pas nous qui avons inventé, mais c'est la doctrine de sécurité globale. En fait, dans la situation, et c'est ce qu'on dit quand on dit « isolat de Poutine », etc., etc., en fait, pour, dans le moment du retour des empires, dans ce qui est en train de nous arriver, cette doctrine, elle consiste à dire, bien sûr, il faut adapter notre défense et notre état-major par rapport aux menaces, mais il y a la question de la sécurité climatique et écologique, là, la question de la sécurité sociale. L'un, pour moi, des plus grands dangers par rapport à Poutine, c'est pas tant de perdre sur la ligne de front, c'est qu'on sacrifie tellement nos politiques sociales dans nos pays que l'extrême droite arrive au pouvoir. Bardella, Premier ministre, ils n'ont plus besoin de faire la guerre. La guerre, elle est gagnée, d'une certaine façon. Parce que la France bascule, l'Union européenne bascule. Et par ailleurs, la France, c'est la première point d'appui militaire de l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Donc c'est ça, en fait, penser la défense de notre modèle, c'est pas que de notre territoire, de notre imaginaire, de notre idéal, ça implique une doctrine de défense et de sécurité globale qui ne se réduira pas à la question du « rearm Europe ». Par ailleurs, j'attire l'attention du risque d'effet d'aubaine, parce que vous avez tout le milieu militaro-industriel européen qui, par définition, ne sait pas faire les armes dont on a besoin, qui vont dire « bah oui, rachète les trucs que je sais déjà faire ». Donc on va, comme des cons dans nos pays, remplir notre arsenal de trucs qu'on a déjà, dont on n'aura pas besoin, alors qu'on a besoin de déployer d'autres choses. Donc il y a toutes ces questions-là. Et pour finir, et c'est toi qui m'y as fait en penser, Thomas, sur comment on réinterroge l'histoire qu'on se raconte, nous, l'Europe, par rapport à nos grandes valeurs. Il y a un truc, j'allais dire le slogan, la devise de l'Europe, c'est la paix et la prospérité. Enfin, c'est uni dans la diversité, et c'est l'objectif, c'est la paix et la prospérité. Le grand problème fondamental qu'on a à régler, c'est que la manière dont nous avons construit notre modèle de prospérité est générateur de guerre. Pas forcément chez nous, historiquement. C'était nos colonies, c'était notre empire. Mais en fait, le mode de prospérité qui s'appuie sur des matières premières physiques qu'on va accaparer, qu'on optimise pour notre gueule, pour être dans la prospérité, ça, ça génère des guerres. Et aujourd'hui, tu l'as très bien dit, en fait... les empires se retournent contre un ancien empire qui est nous. Et donc, en fait, fondamentalement, la paix, c'est réinterroger notre rapport à la prospérité pour vraiment avoir la paix. Et ça, c'est autre chose que d'un truc de tableau Excel où on change l'origine énergétique. Bien sûr, c'est fondamental, mais c'est vraiment dans l'imaginaire de société et dans comment on réinvente notre rapport au monde. Comment l'Europe rompt avec son histoire multiséculaire, de rapports prédatrices au reste du monde. Ça, c'est vraiment un défi civilisationnel plus que technique. Enfin, je pense qu'on comprend tout ça.
Merci, David. Comme ça fait déjà une heure, s'il y a des questions, on peut aussi vous intégrer à la question. OK, mais j'arrive, madame. Après, on a cette question en suspens qu'on n'a pas traitée, mais qui est effectivement la question de la capacité à mobiliser les gens dans la période, malgré la faiblesse des coopérations.
Merci de vos interventions. C'est vrai que, enfin, moi, j'ai du mal à comprendre à quel jeu joue l'Europe en ce moment. C'est-à-dire, bon, il y a d'une part les politiques d'armement, on ne comprend rien. Enfin, ils se contredisent tous. Je ne vois pas comment on pourrait revenir à une force quand même assez unitaire. Pour moi, chacun est disparate, chacun est dans son coin. Et c'est quand même vachement dur à imaginer. Bon, l'Europe soutient l'Ukraine, mais comment ? Enfin, moi, j'ai souvent du mal à comprendre. Quand on voit qu'il se laisse... l'Europe n'a pas réagi par rapport à la séance à la Maison-Blanche avec Trump... sur Volodymyr Zelensky. Enfin, il a été traité comme de la merde. Enfin, excusez-moi, mais je ne sais pas si vous avez vu la séquence. Mais c'est choquant. Mais personne. Alors, est-ce que c'est une histoire de... On veut surtout pas, quand vous dites que l'Europe se sent faible, mais elle montre aussi qu'elle est faible. Donc, effectivement, elle ne réagit pas. Enfin, Van der Leyen on la trouve faible, insipide, enfin, je sais pas, molle. C'est qui cette femme ? Non, non, mais c'est vrai. C'est... Alors, je dis pas qu'il faut qu'elle joue au Poutine, hein, c'est pas ça. Mais je trouve qu'elle elle a du mal à trouver sa position de présidente de l'Union européenne. Enfin, de voilà quoi. Hein. Bon, c'est un peu mélangé hein, ce que je dis. Il y a pas beaucoup d'ordre, mais c'est. Oui, merci.
Oui. Une brève question, je profite du micro. Merci beaucoup pour vos interventions. Oui, c'est bon. Là. Ah oui, d'accord. Là, c'est bon. Oui. Oui, je voulais vous demander, vous avez fait un tableau qui est alarmant en effet, mais qu'on pouvait connaître aussi des 30 à 40% d'extrême droite au sein de... Du Parlement. Est-ce que vous savez ce que pense en fait l'extrême droite européenne de cette théorie des dominos que l'on commence à avancer puisque des pays d'Europe centrale et orientale sont en train de basculer, soit sous effet de la guerre hybride, de la désinformation russe. Il y a quand même un basculement à l'extrême droite de plusieurs pays maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci.
Oui, merci. Bah, déjà, un premier mot, je voulais vous remercier du travail que vous faites à l'Europe et avec non seulement la détermination, mais aussi la constance que vous avez au Parlement. Le sujet est passionnant et j'avais juste une petite question qui est, c'est le mot. Les mots ont un sens et ont une importance énorme. Vous avez commencé votre introduction avec le mot « accaparement ». Bruno Latour en parlait aussi fortement. Et tout à l'heure, j'étais dans un autre atelier sur l'agriculture. Et c'est étonnant la similitude des choses, parce qu'on se posait dans les deux cas là, pourquoi l'écologie a autant de mal à pénétrer un peu nos politiques. Et il y avait aussi la notion d'accaparement. Je sais, là, c'était sur les aides européennes. Et avec la problématique, en fait, on s'aperçoit que des minorités, ce qui est le cas dans les deux cas, des minorités imposent à une majorité leur vision, et j'allais dire presque avec le consentement de la majorité, alors qu'ils n'en bénéficient absolument pas. Et on pourrait décliner plein d'exemples. J'arrête là. Est-ce que vous pourriez développer cet aspect ?
Je vous laisse déjà répondre à ces trois premières questions.
Alors, par rapport à « il n'y a pas eu de réaction », je nuancerai, parce qu'il s'est passé quelque chose, alors qui a été moqué d'ailleurs par l'extrême droite, mais ça veut dire qu'ils étaient un peu gênés. C'est qu'un peu après l'histoire Zelensky, quand juste avant que Trump annonce un plan par rapport à l'Ukraine, les chefs d'État des plus importants pays de l'Union européenne accompagnent von der Leyen. Et vous avez cette image hein, dans le bureau ovale. Où, non, mais c'était la première fois que ça arrivait. Je ne dis pas que c'est génial. Je dis qu'il y a eu une réaction qui n'était pas simple parce que, bon, moi, je suis vraiment pas fan de von der Leyen, vous avez compris, donc voilà. Mais j'aimerais plaider contre moi-même, quelque part. Elle est aussi tributaire d'intérêts nationaux qui ne sont pas les mêmes, avec des chefs d'État qui, bon, quand ils ont intérêt à faire grouper avec von der Leyen, ils le font. Quand ils ont leur exportation de cognac et de pinard à négocier dans leur coin, ils le font. Mais pire, nous avons des capitaines d'industrie ou qui se présentent comme tels. Vous les avez vus. Arnaud, le patron de CMA-CGM, défiler dans le bureau ovale, annoncer les milliards d'investissements. Et donc, quand vous êtes la chef de l'Union européenne, que vous avez des États voilà, qui jouent leur propre partition, vos plus grandes entreprises qui vont dire « pas de problème, vous êtes formidable, Donald Trump », et qui, en plus, ici, vous voyez Bernard Arnault sur la taxe Zuckman. En fait, vous êtes quand même dans un contexte où les choses, elles sont compliquées. Donc, je dis tout ça, pas du tout pour soutenir von der Leyen. c'est son problème de gérer ces trucs-là. Donc en fait, ce n'est pas une excuse. Mais c'est pour nuancer l'idée que notre problème est bien plus profond que van der Leyen. C'est ça. C'est qu'en fait, il ne suffit pas de remplacer van der Leyen. Moi, j'ai voté l'une des motions de censure sans conviction, parce que bon, on parlera de ça si vous voulez, mais c'était, tout ça était minable. Mais bon, bref, je l'ai voté quand même, parce que bon, elle n'avait aucune chance de passer. Mais bon, voilà, pour envoyer un signal quand même, de dire là, ça ne va pas. Ça ne va pas, les renoncements, on en a parlé sur le Green Deal. Enfin, en fait, on a des gens qui sont en panne de doctrine. Et c'est ça le problème fondamental. On a un espace politique qui est en panne de doctrine. Donc on tâtonne. Il faut maintenir à tout prix le libre-échange, libre et non faussé, mais on va accepter quand même de se prendre 15% dans la tête. On est attaqué par les géants de la tech, mais bon, peut-être faut pas trop réguler parce que sinon il va se venger. C'est, en fait, on a un problème de doctrine. Et ce problème de doctrine, non, mais il est très profond. C'est qu'en fait, qu'est-ce que fait cette Union européenne ? On l'a dit, qui vient d'une logique d'empire, donc d'accaparement, des trucs. Qui a dit, grâce au libéralisme libre-échangiste, on va construire une prospérité. Et quand tout ça s'effondre, c'est quoi la nouvelle doctrine ? Et là, on a affaire à des dirigeants qui sont en panne de doctrine. Et c'est là, fondamentalement, le problème de ceux qui sont majoritaires, le PPE et machin, ceux qui sont à peu près majoritaires, c'est ça. Sur l'extrême droite, parce que la question a été posée, qu'est-ce que... Alors d'abord, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a eu un problème, un des problèmes, dès qu'on a été élu. Nous, les Verts, et je pense un certain nombre, on a dit à van der Leyen, vous dites vous voulez une majorité pro-européenne. Et donc, vous demandez un soutien, y compris à des groupes politiques qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais ça, ça nécessite un cordon sanitaire avec l'extrême droite. Parce que la logique, ça aurait été de dire, qu'est-ce que j'appelle le cordon sanitaire ? C'est les groupes d'extrême droite, on ne les compte pas. D'accord ? Donc, quand on trouve des compromis, on ne compte pas leur voix. On ne peut pas le faire jusqu'au bout, mais l'idée, c'est qu'au moins, elle assume ça. Et là, j'insiste là-dessus sur un glissement très pervers, où le sujet, c'était plus de faire le cordon sanitaire contre l'extrême droite, mais contre les groupes pro-Poutine. Pourquoi c'est pervers ? Parce qu'en fait, il ne suffit pas d'être anti-Poutine pour plus d'être extrême droite. On peut être, et c'est le cas, pourquoi elle fait cette distinction ? C'était pour inclure qui ? Mélanie. Et le CR, qui, effectivement, sont plutôt atlantistes, pour faire très vite. Sauf que, dans la réalité des dynamiques, et t'en parlais, Thomas, de vote, il y a une capillarité entre le CR et les autres groupes d'extrême droite, parce que, modulo Poutine, ils sont d'accord sur toutes les autres conneries. Niquer l'écologie, niquer les droits sociaux, niquer les migrants, les Arabes, les femmes, les trucs, ils sont contre tout ça, la parité, les trucs antisexistes. Et donc, en fait, on a un problème où on a fait rentrer, quelque part, le loup dans la bergerie, via le CR, et sous couvert de quoi ? Oui, mais la priorité, c'est de se défendre de Poutine. Ce qui est vrai. Mais ce n'était pas une raison pour flouter la différence entre être démocrate et d'extrême droite. Et ça, c'est une faute originelle, pour moi, du PPE et de van der Leyen. C'est une faute originelle. Et en fait, on n'en sort pas de ça. Et d'ailleurs, si vous regardez ce qui se passe en France, il est troublant de voir des similitudes. Il n'y a pas besoin, j'ai pas besoin de le détailler. Sur l'histoire de l'accaparement, vous avez un petit faux air de la tour, je trouve. Je ne sais pas si ça vous fait. Enfin, vu d'ici, vous avez un petit look qui ressemble. Moi, je suis très fan aussi des travaux de Bruno Latour, qui sont évidemment importants. Sur la question de la cabane, notamment, vous vouliez qu'on parle d'agriculture plus spécifiquement ou Ah oui, comment ça se fait qu'ils sont majoritaires ? Ah oui, alors ça, c'est une vieille question. Les marxistes avaient résolu ça par la lutte des classes. C'est-à-dire qu'ils avaient théorisé la question de la lutte des classes, et donc en fait, on est plus nombreux et on se fédère. Et là, on a un problème de changement de paradigme où la définition de ces classes est moins évidente, pour plein de raisons. La mutation du travail, y compris, de mon point de vue, les impasses théoriques du marxisme. Et donc, c'est pour ça que Bruno Latour avait réfléchi à l'histoire de la classe écologique. Sa réponse à ça, et t'en as parlé un peu, Thomas, comme on trouve des alliances, c'est de définir une classe écologique. C'est quoi un peuple écologique, écologiste ? Et pour l'instant, on essaye de tâtonner par rapport à ça. Il y a des obstacles. D'abord parce que c'est s'attaquer à des intérêts qui sont de plus en plus puissants. Parce que des intérêts puissants qui avaient intérêt au statu quo et à maintenir l'accaparement, ça a toujours existé. Mais il y avait des rapports de force qui étaient différents. Je vais donner un exemple. C'est qu'après la révolution industrielle et jusqu'à récemment, les capitalistes et les capitaines d'industrie avaient quand même besoin d'une force de travail dans des lieux précis qui pouvaient, par exemple, s'ils se mettaient en grève, s'arrêter tout. Aujourd'hui, la façon dont est organisée la production de la richesse permet de contourner ce rapport de force. Et donc, on a un problème de rapport de force, à fédérer un rapport de force. Certes, on est les plus nombreux, mais on explosait. Et donc ça, comment on arrive à refédérer sur une doctrine, pour reprendre le terme de doctrine, que j'utilise beaucoup trop peut-être, une doctrine où les gens lesquels s'identifient, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'y compris nos adversaires, tu parlais tout à l'heure du backlash écolo, quelque part, alors... Bon, je veux bien que ça soit, c'est pas ce que tu as dit, hein, de la faute de Sandrine Rousseau. Bon, c'est pas. Non, c'est pas ce que tu as dit. Mais d'ailleurs, il y avait hier, j'ai raté, c'est Les grenouilles, Les vipères ne tombent pas du ciel de Eric Schmann, qui a fait un bouquin qu'il faut absolument que je lise, mais j'ai vu les interviews où il parle beaucoup de ça. Il explique justement comment l'écologie est devenue définie comme étant punitive. Donc, ça, c'est une question sur laquelle, sans doute, les écologistes ont de responsabilité. Ceux qui ne sont pas écologistes et qui n'ont pas forcément soutenu l'écologie, peut-être en ont une aussi, et les lobbies, les puissances installées qui ont des capacités de prescription dans le débat public du champ de bataille en ont une aussi. Mais bon, ça ne décharge pas notre brouette. Il est évident de la façon dont nous parler, c'est le grand, je voulais dire ça tout à l'heure, mais c'est un des grands problèmes du pacte vert en réalité. Le pacte vert a été vécu comme une prescription technocratique, arbitraire, à laquelle en plus il manquait un pilier fondamental qui est l'investissement. En fait, une transition écologique, ça ne peut pas être que des règles. Pour que ça marche, il faut des règles, il faut de l'investissement. Il y a la carotte et il y a le bâton. Mais comme l'Union européenne n'a pas de capacité budgétaire en réalité, on pourrait parler de ça, mais c'est le grand point faible de l'Union européenne. Quand Biden fait l'Inflation Reduction Act, d'ailleurs il n'appelle pas ça le plan, le Green Deal, hein, il appelle le plan de réduction de l'inflation, ce qui effectivement sonne un peu mieux aux oreilles. D'ailleurs, pour la peine, il n'y a pas tellement d'écologie dedans en vérité. Mais ils dégagent des thunes pour le faire. Nous, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Il fallait le faire, c'est le fameux plan de relance Covid. En fait, les 800 milliards qu'on aurait pu avoir pour faire la transition, on les utilise, pour des raisons sociales qui s'expliquent, pour faire non pas un plan de transition, mais un plan de relance. Un plan de relance de quoi ? Ben de l'existant. La relance, c'est le contraire de la transition. C'est le maintien. Et donc là, on rate un momentum où les réglementations arrivent et les thunes pour transformer l'essai passent à autre chose. Et ça, c'est ça le problème qu'on a eu. Et effectivement, on va avoir une difficulté à rattraper ce moment-là parce que ce que les gens en ont retenu, c'est cette dichotomie-là. C'est injuste, mais le réel, c'est quand on se cogne, comme disait l'autre. Donc en fait, il faut en tenir compte quand même.
Non. Mais du coup, je disais à Thomas que comme il y avait beaucoup de questions, je proposais de reprendre tout de suite 3 questions. Et ensuite, je te donne la parole, Thomas.
Oui, bonjour. Apparemment, l'Union européenne est le plus gros contributeur de fonds, en particulier pour les pays en développement. Et à quel degré c'est une arme politique et comment c'est géré ? Et comment ça intervient, même si je crois que c'est des financements qui sont un peu en déclinaison, tout ça, comme l'AFD en France, enfin qui s'appelle plus l'AFD d'ailleurs, mais bon, bref.
Bonjour. Merci, c'est très intéressant. J'ai une question concernant donc, vu qu'on parle de guerre et paix écologique par rapport à ce qui se passe en Ukraine, et donc vous avez parlé des sanctions sur les énergies fossiles, moi j'aimerais parler des sanctions qui n'existent pas sur le nucléaire et notamment sur Rosatom. Donc, vu le rôle joué par Rosatom dans la guerre, ce ne serait pas seulement une nécessité économique, elle serait plus d'ordre de limiter l'outil et d'annihiler l'outil géopolitique et géostratégique qu'est Rosatom pour Vladimir Poutine. Donc Rosatom, c'est l'industrie nucléaire civils et militaires russes fondés par Vladimir Poutine, qui aujourd'hui donc, occupe la centrale nucléaire de Zaporizhia, donc la centrale ukrainienne de Zaporizhia depuis 3 ans et demi, et qui participe à agiter la menace nucléaire, qui s'est rendu complice de torture des employés de la centrale, donc des employés ukrainiens de la centrale. Et donc, on avait publié au début de la guerre un rapport qui montrait l'influence au Parlement européen d'entreprises comme Lukoil ou Gazprom pour les énergies fossiles et Rosatom sur la politique énergétique européenne. Et de fait, la construction de réacteurs russes, de conception russe en Europe par Rosatom, installe un verrou, en tout cas une dépendance de la politique énergétique européenne à la Russie. Et pour terminer, Raphaël Grossi, qui est le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, joue un rôle assez mis en avant pour la gestion. Hein. Enfin, il essaie de gérer le fait que Rosatom et l'armée russe soient dans la centrale nucléaire de Zaporizhia, et en même temps font la promotion de Rosatom, puisque l'AIEA fait aussi la promotion de l'énergie nucléaire. Et donc Raphaël Grossi se présente pour devenir secrétaire général de l'ONU. Il est bien sûr soutenu à fond par Vladimir Poutine, qui l'a dit il y a 2 semaines quand ils se sont rencontrés en Russie. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi un aspect très important à prendre en compte, tant géopolitique que là, par rapport aux sanctions qu'on a besoin d'avoir, aussi symboliques qu'économiques.
Merci. Oui, David Cormand disait tout à l'heure, pour arriver à la paix, il faut réinterroger notre rapport au monde. Et donc, moi, je dirais, il faut aussi réinterroger notre rapport de citoyen à la défense. Comment on peut associer les citoyens ? Est-ce qu'il faut associer les citoyens à la défense ? Et comment on peut faire pour y arriver ? Je pose la question à tous les deux intervenants.
Oui, ben merci pour vos interventions, pour votre travail aussi important au niveau du Parlement européen. Moi, je voulais revenir sur les éléments sur le début de l'intervention autour de la préparation de la future COP et du coup, de l'effacement clairement qu'on voit apparaître de la question écologique dans les préoccupations du moment. Alors bon, on voit bien tout un tas d'explications autour de la reconnaissance du savoir scientifique, des preuves des phénomènes climatiques, etc. En même temps, on voit quand même depuis 3-4 ans une accélération des phénomènes climatiques et quand même beaucoup de traductions concrètes avec des coûts forts. On commence à voir, y compris le secteur assurantiel qui se désengage d'un certain nombre de prises en charge. Et donc, je voulais avoir un peu votre regard sur la manière dont cette réalité, y compris économique, du changement climatique, est-ce qu'il commence à être un peu une réalité ? Moi, dans le secteur agricole que je connais un peu, on voit aujourd'hui clairement aujourd'hui une diminution, par exemple, de la production agricole qui va devenir totalement irrémédiable dans le contexte, dans les années à venir. Donc, on voit bien que les choses vont s'accélérer. Et je voulais avoir un peu votre point de vue sur la manière dont tout ça commence à être réellement identifié, pris en compte, et de quelle manière ça peut, à l'avenir, réellement peser, quoi.
Thomas Pellerin, plus près, nous donner un argument écologique pour contrer l'empire russe, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi utiliser un autre argument ou politique écologique pour contrer l'empire américain ? Parce que quand même, actuellement, Ursula von der Leyen défend avant tout quand même l'intérêt de l'industrie allemande, en fait, centrée sur l'automobile. Même les syndicalistes français à la Confédération européenne de syndicats me disaient que les Allemands faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour justement défendre l'industrie industrie automobile. Donc, si on mettait beaucoup plus en avant la défense d'autres types de mobilité que l'automobile, ça réduirait quand même l'intérêt donc de l'Allemagne et de l'Union européenne pour vendre des voitures aux États-Unis, quoi. Donc, on n'en parle pas le chemin en France avec suppression des trains de nuit, entre autres. On n'encourage pas les autres formes de mobilité.
Merci. Thomas, tu peux te lancer.
Ok, on y va. Je vais commencer par la dernière question. Effectivement, j'ai mis l'accent sur l'ennemi russe ou l'ennemi Poutine pour deux raisons. La première, c'est que dans ce monde de brut, il faut prioriser les périls. Et le péril russe est le plus immédiat. Le plus immédiat parce qu'il a déjà déclenché une guerre contre nous et qui est une guerre qui se traduit aussi par... une violation de l'espace aérien de l'Union européenne, qui se traduit déjà par des sabotages et qui, depuis 2014, se traduit aussi par des morts en Europe. En 2014, c'est très peu connu en France. Donc 2014, c'est le début de la guerre en Ukraine. Dans le Donbass, notamment, où il y a des affrontements très importants. Il y a un entrepôt en Tchéquie, dans une ville qui s'appelle Vrbetice, où sont stockés des obus qui ont été produits en Tchéquie et qui sont destinés à l'armée ukrainienne. Le GRU, qui est en gros le service secret de l'armée russe, envoie des agents sur place et fait sauter les deux entrepôts. Donc en fait, sauter les entrepôts d'obus, voilà. Feu d'artifice, deux morts. Donc on a déjà des citoyens européens, des citoyens tchèques en l'occurrence, des travailleurs, qui ont été tués par les services secrets russes. Donc c'est la première raison pour laquelle je priorise, mais encore une fois, prioriser, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas une menace. Et Trump est une menace beaucoup plus puissante à long terme, et Jay Evans t'en parlait, hein, tout à fait aussi, mais elle est moins, ils ne sont pas encore sur le sol européen en train de nous bombarder, quoi. La deuxième raison, c'est pour une raison de coalition politique qu'on peut avoir au Parlement européen. Honnêtement, je ne sais pas si on devait faire un sondage des 720 députés européens, si on devait dire est-ce que vous aimez Trump, oui ou non. Je ne sais pas le résultat. J'espère qu'on aurait une petite majorité anti-Trump, mais j'en suis même pas sûr. Même pas sûr. Bah parce que il y a une partie de la droite et une partie de l'extrême droite qui est pro-Trump, mais anti-Poutine. Et donc du coup, mettre l'accent sur l'ennemi Poutine, dans le contexte politique actuel au Parlement européen, ça nous permet d'avoir une coalition plus grande, et donc de plus grandes chances de succès. En écoutant David répondre juste avant, ça m'a rappelé une phrase de Étienne de la Boétie. Donc là, je reviens sur la question de Madame sur Ursula von der Leyen et l'Europe plus généralement. Ah, je sais bien. Je pense vous avoir bien compris. C'est comme ça en tout cas que j'ai compris votre question. Mais revenu du coup, la fameuse phrase d'Étienne de la Boétie qui dit... ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et là, c'est un truc où, en fait, on est à genoux, mais comme tu le disais, David, on est à genoux psychologiquement. C'est-à-dire qu'on a choisi de se mettre à genoux, on a les muscles pour se relever, nous, Européens, mais on ne le fait pas. Et effectivement, en termes de budget militaire, on a plus de budget militaire que la Russie. Je vais même aller plus loin. On a plus de soldats en Europe qu'aux États-Unis. Mais effectivement... on a 27 armées disparates qui, je suis bien placé pour le savoir, n'ont pas les mêmes doctrines, pas les mêmes matériels, etc., etc. Enfin, moi, ma première mission dans l'armée française, la première mission qui m'a été confiée, c'était la coopération franco-britannique pour rendre les armées françaises et britanniques interopérables. Donc, l'idée, c'était que notre infanterie de marine, donc c'est un peu l'équivalent français des Marines américains, puisse aller sur des bateaux britanniques et débarquer. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible. Pour des raisons juridiques, des raisons techniques, des raisons complètement débiles. Il y a mille petits trucs à corriger. Bon, on a commencé à travailler sur ça, puis après il y a eu le Brexit. Donc bon, voilà. ils m'ont tasqué sur autre chose. voilà. Ursula von der Leyen, en tant que présidente de la Commission européenne, je ne dirais pas qu'elle est faible. Je dirais plutôt qu'elle a un pouvoir qui est limité. Moi, j'ai plein de désaccords politiques avec elle, hein, soyons très clairs. J'ai quand même une admiration pour la femme qu'elle est. Parce que des gens qui arrivent à ce niveau en politique, à fortiori en étant une femme, sont peu nombreux. Et elle fait partie des gens qui ont clairement tenu tête à Poutine dès 2022 sans hésiter. On ne va pas se mentir. Rappelons-nous à l'époque. Hein. à l'époque, en 2022, le seul mec que je connais qui tient tête à Poutine vraiment, c'est Zelensky. Zelensky. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Côté, c'était le premier concerné, exactement. Et c'est, voilà. Mais on était à l'époque où, bon, je veux dire du mal d'un de mes camarades sociodémocrates allemands, mais Olaf Scholz n'était pas à la pointe de la réaction, puisqu'il disait que désormais, il allait envoyer en Ukraine des casques. Et c'est très bien les casques, hein, c'est très important, hein, mais voilà, c'est un peu insuffisant. Puis en plus, je crois qu'il voulait en envoyer 5000, enfin, bon, c'était ridicule. Mais c'est des casques allemands. Mais balayons devant notre porte. À ce moment-là, que dit Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron dit il ne faut pas humilier la Russie. C'est-à-dire que tu as l'armée russe qui est en train de mettre des balles dans la nuque des civils à Boutcha, et tu as le président de la République française qui dit que la priorité, c'est de ne pas humilier la Russie ? Non mais on, voilà. Qui tient tête à Poutine à ce moment-là ? Sanna Marin, femme politique, première ministre social-démocrate de la Finlande. Kaja Kallas, femme politique, première ministre de l'Estonie, aujourd'hui responsable de la diplomatie européenne, et Ursula von der Leyen. David a très, très bien expliqué une des limites du pouvoir d'Ursula von der Leyen, c'est le fait que les États membres, donc les gouvernements nationaux, la soutiennent pas tout le temps parce qu'ils font passer une vision étriquée de l'intérêt national avant l'intérêt européen. Je vais compléter ça avec un autre problème qu'elle a et qui n'est pas très connu. Levez le bras dans la salle, si vous connaissez un mec qui s'appelle Manfred Weber. Voilà. Non, mais c'est une vraie question. Je pense que c'est... Si je vais faire le ratio de homme le plus nuisible tout en étant le moins connu, il se pose là. C'est le chef du Parti populaire européen, c'est-à-dire le chef du premier groupe politique au Parlement européen, le groupe de droite. Il est par ailleurs allemand, enfin, il est bavarois. On me dit que c'est différent. Et qu'est-ce qu'on a vécu il y a un mois au Parlement européen ? Il y a un mois, en fait, chaque année, la présidente de la Commission européenne vient au Parlement européen et fait un grand discours sur l'état de l'Union européenne. C'est un discours d'une heure où elle fait le bilan et elle parle de tous les sujets dont elle a choisi de parler. Et elle a dit très clairement que ce qu'elle voulait, c'était une coalition pro-européenne. C'est-à-dire avec les sociodémocrates, les verts, les centristes, les chrétiens démocrates, donc la droite européenne, et probablement dans sa tête, il y avait aussi l'ECR dont tu parlais. ECR à part, une coalition avec laquelle on est très d'accord, parce que c'est la seule coalition qui permet encore la construction européenne aujourd'hui. Ursula von der Leyen, elle est aussi issue du PPE, elle est aussi issue de la droite allemande. Elle finit son discours, et après arrive Manfred Weber. Manfred Weber fait un discours de 6-7 minutes, je vous encourage à l'écouter, c'est disponible sur YouTube. C'est pas un homme au charisme, enfin, il a le charisme d'un comptable. Non, faut que j'arrête de. D'accord, ok, pardon. Voilà. Manfred Weber, encore une fois, il peut parler de tous les sujets qu'il veut. Qui est le premier acteur politique qui l'attaque dans son discours ? Est-ce que c'est Trump ? Non. Est-ce que c'est Poutine ? Même pas. Est-ce que c'est l'extrême droite ? Non. C'est les sociodémocrates. Donc clairement, Manfred Weber, il envoie le message que cette coalition pro-européenne, il n'en veut pas. La coalition qu'il veut, et la seule alternative sans les sociodémocrates, et sans les verts aussi, c'est l'alliance à l'extrême droite. Et donc ça, c'est un des problèmes qu'a reçu la von der Leyen, puisque alors, c'est compliqué pour nous Français de comprendre, mais l'Union européenne, c'est une vraie démocratie parlementaire, de ce point de vue-là. Et en fait, le chef de son groupe politique au Parlement est en désaccord avec elle sur la coalition centrale pour faire de la politique. Donc ça rend les choses très, très compliquées. Sur l'Ukraine, l'Union européenne aide l'Ukraine financièrement mais de manière hyper importante. Aujourd'hui, l'économie ukrainienne ne tient qu'avec l'aide européenne, pour être très clair. J'ai plus les chiffres, mais je crois que c'est un truc du style 30% du PIB de l'Ukraine est dans la guerre. Moi, j'étais à Kiev, moi-même, donc la capitale de l'Ukraine, en février. Et d'ailleurs, j'y suis allé en train, ce qui prouve que, enfin, depuis chez moi à Caen jusqu'à Kiev, c'est tout à fait possible d'y aller en train. Faut faire des, c'est pas direct, hein. Il y a un changement à Paris. Non, faut faire des pauses, en profiter pour passer un peu de temps à Berlin et à Varsovie. Sinon, c'est fatigant. Ça fait. Il y a bientôt plus de train de nuit pour aller jusqu'à Berlin, donc voilà. Ouais. Donc, l'aide financière, elle est immense. L'aide militaire, elle passe surtout par les États. Et là-dessus, la France n'est clairement pas là où il faut. La France donne 6 milliards, a donné depuis 2022 6 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine. Le Danemark en a donné 9. Donc moi, si vous voulez, en tant que patriote français, je me retrouve à un stade où j'ai envie que la France fasse en valeur absolue, hein, aussi bien que le Danemark. On en est là, hein, parce qu'il ne faut pas humilier la Russie. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut évidemment qu'on envoie plus d'armement, mais ce qu'on propose aussi avec Raphaël Glucksmann, et on est allé en Ukraine pour ça, pour voir comment ça fonctionnait, c'est de voir comment fonctionne ce qu'on appelle le modèle danois. Donc une partie de l'aide militaire du Danemark, c'est en fait de les Danois vont payer pour que les Ukrainiens puissent produire eux-mêmes de l'armement directement en Ukraine. Et ça, ça permet de faire ce que les industriels européens ont du mal à faire, et David le soulignait, c'est à produire les armes dont les Ukrainiens ont vraiment besoin tout de suite. Et ça, la France ne le fait pas, et on se bat pour que la France puisse le faire aussi, ce serait une vraie aide. Comment est-ce qu'on associe les citoyens à la question de l'effort de défense ? Là-dessus, je peux vous renvoyer sur ce qu'on a mis dans la vision de place publique. Donc, on a proposé en tant que parti politique en juin 2025 notre vision pour la France. C'est pas un programme, c'est pas suffisamment détaillé pour qu'on appelle ça un programme, mais ça lance déjà des éléments. Je vais souligner trois points qui sont présents dans notre vision. Premier élément, le plus grand risque pour nous de perdre la guerre, c'est par l'arrivée de Jordan Bardella au pouvoir. Ça peut arriver à cause des coupes dans les dépenses sociales que David mentionnait, et ça peut arriver aussi si on continue à avoir une nation française qui ne sait pas résister aux attaques informationnelles. Vous appelez ça désinformation, manipulation, ce que vous voulez. La Russie mène une guerre informationnelle à la France depuis plus d'une décennie. Comment est-ce qu'on équipe les citoyens français pour résister à ça ? Parce que c'est la première ligne de défense, c'est les enjeux qu'on connaît, hein, c'est les enjeux de développement du sens critique. Il y a une part de l'école de la République, il y a une part des enjeux d'éducation populaire, de ce qu'on peut faire avec les médias, etc., etc., pour être capable de déconstruire les informations qu'on reçoit. Et plus de sens critique, ça permet aussi de résister aux attaques informationnelles russes. Et là-dessus, on veut juste déployer en France ce qui existe déjà en Estonie et qui fonctionne très bien. Deuxième volet, formation au premier secours. En Ukraine, une des choses qui m'a positivement surprise, c'est que tout le monde se balade avec un tourniquet. Tout le monde sait comment faire un garrot. Un garrot. C'est essentiel, évidemment, quand vous êtes bombardé. Pour avoir dû dormir dans un bunker pendant plusieurs jours, je vous assure que... on s'y habitue au bout de 3 jours, mais c'est un peu particulier comme mode de vie. Et à titre anecdotique, et je dis ça notamment quand j'ai l'occasion de parler au patronat MEDEF, CGPME, les entreprises privées en Ukraine, pour faire des activités de team building, comme on dit, donc des activités à leurs salariés, et ben ils ont remplacé les activités type escape game ou paintball ou je ne sais quoi, par une formation premier secours. Ce qui est une des manières d'avoir un maximum de gens formés au premier secours. C'est essentiel pour les enjeux de défense, mais par ailleurs, c'est essentiel pour résister ou pour être résilient plutôt aux catastrophes climatiques et aussi aux accidents de la vie de tous les jours. Et avoir une société française où la moitié des gens auraient une formation de premier secours, ça sauverait des vies en temps de paix et encore plus, bien évidemment, en temps de guerre, si guerre on doit connaître à nouveau. Troisième et dernier volet, c'est la question de la réserve. Moi-même, j'étais officier de réserve dans l'armée de terre, donc je sais ce que c'est. Si on était en Finlande, tous les hommes de la salle qui ont entre 18 et 50 ans seraient tous réservistes, et une bonne partie des femmes aussi, et ne seraient pas simplement des gens comme je suis aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai été réserviste, maintenant ce qu'on appelle en deuxième service. Même quand on est en deuxième service en Finlande, ils sont 900 000 à l'être, ils savent à quelle unité ils sont, ils ont les armements à disposition à proximité, ils ont leur uniforme, etc. Et ça permet d'avoir une société beaucoup plus résiliente. Ultime point sur l'adaptation au changement climatique. Donc, l'impact du changement climatique, il est réel, vous le savez. Pour donner juste 2 exemples qui viennent du coup de notre Normandie, je vais commencer par la mienne, si tu veux bien, la basse Normandie. Ok. On a déjà des sécheresses très importantes du côté de Vire, la ville de Michel Drucker. En 2022, franchement, on est passé à ça, de devoir mettre de l'eau dans des camions à Caen pour apporter de l'eau pour que les êtres humains à Vire puissent continuer à boire, tout en mettant des vaches dans des camions de manière à ce qu'elles aillent ailleurs parce qu'il n'y avait plus d'eau pour le bétail. Ça, c'était 2021 et surtout 2022. Donc il faut clairement qu'on s'adapte à ça, et ça demande du coup de revoir l'importance de l'élevage, en particulier dans cette partie-là de la Normandie. En Haute-Normandie, à Quiberville, il y a déjà eu le retrait du camping du village, parce que la montée des eaux est telle que le risque d'inondation côtière est trop important. Et on est déjà, et là-dessus c'est quand même assez courageux politiquement de faire ça, de dire bah, en fait cette zone-là, on ne peut pas s'adapter. Et donc la seule manière de s'adapter, c'est de se retirer et d'aller vivre ailleurs. Il y a encore beaucoup de boulot à faire là-dessus, et j'en parlais mercredi matin, au petit déjeuner avec le commissaire européen en charge du climat, Wopke Hoekstra, c'est un néerlandais, et c'est lui qui est en charge de l'adaptation. Et je ne sais pas encore ce qu'il va faire, mais le fait d'avoir un néerlandais qui vit sous le niveau de la mer, qui est en charge de l'adaptation au changement climatique, ce n'est pas une mauvaise chose.
J'ai passé la parole à David, mais je lui rajoute une question qui est celle que je voulais vous poser en dernier. Et peut-être toi, qu'après tu pourras venir sur la question de Pauline sur Rosatom. Ouais, désolé. Bon, David, je te laisserai aussi répondre à toutes les questions que tu voulais répondre, mais c'est celle que je voulais quand même aussi vous poser, donc je la réintègre maintenant. C'est-à-dire que et tous ceux qui font campagne pour l'écologie au plus près, enfin dans les territoires, j'imagine que c'est le cas à Strasbourg, à Jeanne, mais on a beaucoup entendu ces dernières années, donc je reviens vraiment sur la question, le lien entre géopolitique et accélération de la transition. On a beaucoup entendu l'argument de oui, mais la France, elle émet moins d'1% d'émissions. Pourquoi on s'embêterait à ? Et évidemment, je reviens au tout début du débat, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où la question de la coopération et donc la capacité à entraîner le reste du monde dans la réduction des émissions est extrêmement compliquée. La question qui se pose donc, c'est qu'à partir du moment où on a pu cet argument, qui est un argument fort, qui a entraîné en partie la société française entre 2015 et 2020, qu'est-ce que ce nouveau contexte de guerre, de tension, dans ce monde de brut, comment on trouve encore de l'espace et des arguments pour mobiliser les gens, malgré le fait que finalement, on sait qu'on peut faire des efforts, mais que les autres vont continuer à polluer comme des gros cochons dans les quelques années qui viennent. Je te passe la parole, David.
Oui, mais bon, ça, c'est un... Et bon, Thomas, il connaît mieux les trucs des chiffres et tout ça, mais c'est pas vrai qu'on représente 1%. Notre modèle de consommation, c'est pas 1% des gaz à effet de serre. Et non seulement il y a notre consommation directe d'effet de serre apporté, mais il y a ce qu'on prescrit comme modèle de consommation au reste du monde. On est des pousses au crime. Nos modes de vie, je vise personne en particulier, mais ce qu'on renvoie au monde de modèle d'émancipation ou quoi, est un pouce au crime. Donc c'est ça, c'est pas combien il y a de CO2 que nous on libère de notre territoire à nous, quoi. C'est qu'est-ce qu'on renvoie. Et quand je parlais tout à l'heure de revisiter notre rapport au monde, je parlais aussi de ça. C'est quel modèle d'émancipation, d'épanouissement, de justice et de bonheur on renvoie au monde. Et donc, ça, là-dessus, on a un pouvoir qui est bien au-delà des 1%. Et pour faire un peu le truc franchouillard, pour des bonnes et des mauvaises raisons, la France, elle représente un peu encore quelque chose dans le monde. Parce qu'on a une histoire des idées. Et donc, je pense qu'on peut être inspirant pour des choses qu'aujourd'hui, on ne fait pas. Je voulais revenir sur... Après, je voulais nuancer un truc, parce que sur comment on remobilise, je reviens sur l'affaire du backlash, et je crois qu'il y a eu une intervention sur l'effacement de l'écologie, c'est vrai. J'attire notre attention sur le fait qu'elle est aussi à relativiser. Vous avez vu, par exemple, cet été, l'histoire de la loi du plomb. Il y a un exemple quand même qui doit nous interroger, c'est qu'en plein été, les gens vraisemblablement avaient autre chose à foutre, ce truc tombe, pétition, d'une étudiante, d'une jeune femme, et 2 200 000 signatures en quelques jours, semaines. Les deux plus grosses pétitions de l'histoire de notre pays, ces deux pétitions sur l'écologie, c'était celle, on se rappelle, hein, l'affaire du siècle, donc plus de 3 millions de signatures, ça devait être en 2017, 2018. Hein. Et là, la loi du plomb, c'est un peu en dessous, mais c'est avec le truc de l'Assemblée, c'est quand même plus compliqué. Bref. Donc en fait, oui, il y a une lassitude, un rejet, mais il y a encore une préoccupation. C'est en fait... Les gens ne sont pas complètement passés à autre chose. Et par rapport à ça, il y a un autre élément. C'est qu'il y a une autre urgence qui a émergé dans nos démocraties. C'est la menace de la démocratie. J'étais à New York, là, dans une initiative qu'a initiée notre collègue député en France, écolo, Pouria Mirchahi, qui s'appelle la Digue, qui est de dire voilà, comment on fait pour s'organiser. Et donc, on va voir comment ça se passe dans des pays où ça a basculé vers l'extrême droite, où ça risque, comment la société civile, les militants écolos, la politique s'organisent par rapport à ça. Et j'ai rencontré notamment une jeune activiste qui est la génération pour le climat ou quoi, qui dit, mais nous, on a complètement arrêté. On est passé à autre chose, en fait. On a mobilisé nos réseaux. Maintenant, on fait défense de la démocratie. Ça ne veut pas dire que maintenant, elle s'en fout du climat. Ça continue à l'intéresser. Mais elle se dit, là, tout de suite, ce qui se passe, c'est la sauvegarde de nos démocraties. Donc, en fait, oui, il y a un effacement, mais qui ne veut pas dire que les gens sont complètement passés à autre chose. Donc, ça, je voulais nuancer. Sur ce que disait Thomas, sur, je ne sais même pas si ça vaut le coup de... Mais je ne suis pas complètement convaincu sur Dr. von der Leyen et Mr. Weber. Hein, c'est Dr. Jekyll. Oui, y en a une qui nous paraît moins antipathique que l'autre, mais ce n'est pas Weber qui l'a obligé à choisir Fitto, qui est méloniste, italien, néo-fasciste, vice-président de la Commission. Elle était obligée de le prendre dans la Commission. Elle n'était pas obligée de lui donner un titre de vice-président. Ça, c'est elle. Tout ce qu'on appelle les omnibus, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais en fait, on revoit les législations pour les simplifier. Bon, quand un mec de droite vous dit on va simplifier, ça veut dire qu'il va défoncer le truc, hein, c'est ça que ça veut dire, en clair. Donc ça, c'est elle, hein, c'est pas Weber, c'est elle, elle est présidente de la commission, c'est elle qui décide d'ouvrir les omnibus. Donc oui, c'est pas pareil, bon, ils sont quand même du même parti, du même tout ça. Un mot sur la question qui a été posée sur le nucléaire, mais je pense Thomas y répondra aussi, oui, il y a évidemment un angle mort dans cette affaire. Et il y a une ambiguïté française, mais que vous avez bien soulevée, sur, et entre parenthèses, enfin, je pense qu'on est l'indépendance énergétique de la France grâce au nucléaire, c'est quand même le bullshit, enfin, c'est l'un des bullshits du siècle par rapport au nucléaire. Non, il n'y a pas d'indépendance énergétique, non seulement il n'y a pas de dépendance énergétique grâce au nucléaire, mais il y a une dépendance non seulement par rapport à la Russie, pour Rosatom, mais par rapport à des pays proches de la Russie, pour l'uranium, ou pour. Bref. Donc en fait, il y a un vrai nœud là-dedans, d'où le problème. Dans une écologie de paix ou une écologie de dire, en fait, si on veut vraiment être indépendant énergétiquement et repas faire les mêmes conneries qu'avec le gaz, le nucléaire est vraisemblablement pas la meilleure idée, notamment à cause de ça. Un mot sur ce que Thomas disait était très juste sur dans la doctrine de défense globale ou de sécurité globale, il y a effectivement la question de la guerre informationnelle et donc des tuyaux qui font passer la guerre informationnelle et donc tout ce qui est le numérique. Donc j'en ai pas parlé parce que on a eu la table ronde sur l'IA tout à l'heure, on en avait parlé, mais en fait, c'est un enjeu décisif. Nos règles, l'augmentation européenne qui nous protège contre les X, les Musk et les réseaux sociaux qui font passer des fake news, etc., c'est une question, c'est la première ligne de défense. Et aujourd'hui, force est de constater que les hackers russes utilisent des infrastructures numériques qui ne sont pas russes. C'est les infrastructures américaines, j'ai parlé de Facebook, X, etc., ou chinoises avec TikTok. C'est ce qu'ils ont fait avec TikTok, enfin pas spécialement les Russes, quoique en Roumanie, en essayant de faire élire un président plutôt pro-Poutine et anti-Europe. C'est ce que Musk a essayé de faire en Allemagne en essayant de faire gagner les néo-nazis en faisant ouvertement campagne pour eux. C'est ce qu'il est en train de faire en Grande-Bretagne en accompagnant la renaissance de l'autre Barjo de Farage qui avait déjà fait le truc du Brexit. En fait, c'est ça qui se passe. Donc, on a un faisceau d'attaques à prendre en compte, y compris ce qu'on appelle la guerre hybride. Enfin, les trucs de guerre hybride auxquels on est confronté. Vous avez posé une question, je ne sais plus, sur le chiffrage de l'inaction. En fait, comment ça se fait. Non, ce n'est pas vous. C'était. Oui, ça, c'est. Je vais y revenir. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a posé une question. C'est, je ne comprends pas. Ça coûte cher, c'est vous là-bas. Ça coûte cher le fait de rien faire. Donc, en fait, économiquement, est-ce qu'à un moment, les gens vont se réveiller? Alors, logiquement, oui. Sauf que le problème, c'est que, pour l'instant, les pertes liées aux conséquences climatiques sont mutualisées. Les gains de ne rien faire pour le climat sont privatisés. Les coûts des conséquences sont répartis. Quand vous dites les assureurs disent qu'ils ne vont plus assurer, ils ne vont plus assurer certains. Qui est-ce qui va perdre? La personne qui va perdre sa baraque. Ce ne sera pas l'assurance, puisqu'elle va arrêter de l'assurer. Donc, en fait, il y a un décalage dans le temps entre ceux qui continuent à tirer des profits des raisons pour lesquelles on défonce le climat et la prise en charge collectivisée, quand on parle d'agriculture, je vous rassure, c'est ou pas, c'est pas Bigard, Lactalis ou Avril qui est emmerdé. Hein. C'est l'agriculteur qui prend la douille. C'est pas Bayer-Monsanto non plus. Et au contraire, ils disent on va avoir des solutions. D'ailleurs, on va vous ajouter de l'intelligence artificielle et des drones pour mieux mettre le glyphosate là où il va falloir être. Eux, ils font un business model de, bien sûr, on va la traiter, là. Mais et ceux qui vont être encore plus arnaqués dans la soire, ça va être les paysans et nous. Enfin, les paysans, l'environnement et les consommateurs, etc. Le blocage, parce qu'effectivement, tout le monde constate le changement climatique. Et donc, on pourrait dire la prise de conscience, action, réaction. Je crois qu'il y a un phénomène qui, est, en plus, qui se comprend complètement, c'est que les gens se disent, déjà, je me prends le changement climatique, je ne veux pas un changement en plus. Parce que nous, on leur dit, bah, y a le changement climatique, il faut tout changer. Ils disent, non, déjà, on prend le changement climatique, je ne vais pas en plus tout changer. Alors que c'est la logique de ce qu'il faudrait faire. Mais vous, il y a un truc de dire, non, moi, je tiens ce que j'ai, vous n'allez pas en plus m'emmerder à changer mes trucs. Déjà, j'essaie de résister. Et donc, la bascule dialectique pour dire que face au changement, pour vivre mieux, il faut changer, intellectuellement, ça paraît logique. En fait, émotionnellement et psychologiquement, là, on a un problème pour faire passer cette idée. Et je finis sur l'international. Dans l'idée de sécurité globale et défense globale, il y a cet autre aspect que j'ai oublié d'évoquer, mais j'en ai parlé tout à l'heure, dans notre rapport au monde. En fait, l'Union européenne a toujours des politiques de développement assez élevées. Dans le prochain budget, il est plutôt réévalué à la hausse, d'ailleurs, le prochain budget pluriannuel, ce sera après 2027. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est un truc vraiment dégueu, c'est que ce n'est plus des conditionnalités, développement humain, vert, etc. C'est des conditionnalités dégueu qui consistent à dire bloquer les migrants, il ne faut plus qu'ils passent par chez vous, sinon on arrête les aides. Et filez-nous des ressources. Oui, mais en pire. Non, mais au pire. Enfin, non, mais c'est, oui, enfin, c'était déjà le cas là depuis 4-5 ans, mais historiquement, ce n'était pas forcément ça. Là, il y a une institutionnalisation de ça qui est extrêmement problématique, alors que là aussi, on rate une occasion incroyable. C'est la fin de USAID, qui était la première aide. Alors, ce n'est pas l'aide au développement, c'était l'aide d'urgence humanitaire, mais qui était colossale, qui était les Américains avaient cette aide-là. Sa suspension du jour au lendemain, je pense que l'Union européenne a raté une occasion de dire « Nous, on supplée, au moins pour la partie aide d'urgence. » Parce que les programmes plus long terme... Et la deuxième chose qu'on aurait dû faire, c'est qu'on ne conditionne pas le maintien des projets de développement ou humanitaire européens au maintien du USAID, puisque USAID a été arrêté à zéro. Donc en fait, il y a toute là une doctrine à développer que je mettais dans le chapeau revoir notre rapport au monde. C'est quoi une politique de développement équilibrée? C'est quoi un rapport au monde sur la question est-ce qu'il faut avoir une politique de défense par rapport aux migrants? Je finis là-dessus parce que la parenthèse est savoureuse. Mélanie est la chef de gouvernement italien qui a le plus régularisé depuis des décennies. Je crois que c'est 800 000 ou 900 000. Et elle le fait pour une raison extrêmement pragmatique. C'est qu'il n'y a pas de possibilité de maintien de l'économie, du modèle économique italien, sans l'apport de main-d'œuvre. Et comme ils ont une démographie à la con, enfin faible, ils ont besoin de... Donc en fait, c'est pas vrai que même sur ces sujets-là, on ne pourrait pas être intelligent ensemble, puisque même la néo-fasciste Meloni, qui s'est fait lire sur la haine des migrants, est la même qui les régularise de façon massive.
Pour répondre à ta question, Kevin, je pense que c'est un des arguments. Alors, c'est pas des négationnistes du changement climatique qui disent ça. C'est les gens qui veulent juste qu'on fasse pas de politique publique pour le climat et qui disent l'Europe, c'est que 7-8% des émissions de gaz à effet de serre, l'Allemagne, c'est que 2%, la France, c'est que 1%. Les ordres de grandeur, on peut à peu près les doubler, mais ça change pas l'argument central. En fait, cet argument-là, il est assez étrange parce que c'est jamais ce qu'on a essayé de faire. Jamais les Européens ont dit on est 15% des émissions de gaz à effet de serre, on va tomber à zéro, ça va régler le problème. À la limite, qu'on soit 1%, 8%, 15%, ça ne change pas l'ampleur du problème, il faut une transformation mondiale, dans tous les cas. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est, puisqu'on n'est pas loin de l'école des arts et métiers, on essaye de faire des prototypes. On essaye de faire des prototypes de transformation énergétiques, écologiques, de mobilité, d'industrie, qui soient réussies. Et donc l'objectif, ce n'est même pas de trouver une manière européenne, ce n'est pas d'avoir un mode de vie européen qui permet de vivre mieux tout en respectant les limites planétaires, c'est de créer des dizaines, des centaines de modes de vie européens, avec un S, qui permettent de vivre mieux tout en respectant l'intégralité des limites planétaires. Donc, pour juste donner des exemples liés à l'énergie, parce que c'est le domaine que je connais le moins mal, dans la transformation française, il y aura une place essentielle de l'éolien en mer. Le parc éolien qu'on a déjà au large de Fécamp, qu'on aura bientôt au large de Coussor-sur-Mer, tout ça c'est en Normandie, mais qu'on a aussi au large de Saint-Brieuc pour retirer du bien de la Bretagne, tout arrive. La France ne réussira sa transformation écologique et énergétique qu'avec beaucoup d'éolien en mer. Il n'y a aucun scénario où la France réussisse sans l'éolien en mer. La Tchéquie, l'éolien en mer, il faudra qu'ils trouvent une autre option, très clairement. La façade maritime tchèque. Voilà. Intéressant, la Pologne a des objectifs de déploiement d'éolien en mer qui sont supérieurs à la France, en valeur absolue. Hein. Ce n'est pas difficile, mais vous connaissez la Pologne, cette grande puissance maritime, qui a une côte. Voilà. Les Polonais, ils ont 300-400 km de côte et un seul régime de vent. Nous, on doit avoir probablement 2000 ou 3000 km de côte. Si on prend que la métropole, je ne parle même pas des Outre-mer, et on a trois régimes de vent. Donc, il y aura une manière française de faire, et cette manière-là inclut l'éolien en mer, et il y aura une manière tchèque de faire, et cette manière-là exclut l'éolien en mer pour des raisons assez évidentes. Idem sur la question du nucléaire. Pour les Slovaques, il n'y a pas de transformation écologique en Slovaquie sans nucléaire. Et le nucléaire en Slovaquie, contrairement à la France, il l'utilise aussi pour des réseaux de chaleur. C'est ce qu'ils font. Et donc du coup, à la fin, quand on aura tous réussi en Europe, il y aura un modèle slovaque avec du nucléaire qui fera et de l'électricité et de la chaleur, et il y aura un modèle autrichien ou un modèle allemand qui aura réussi à faire sans nucléaire et qui démontrera qu'on peut tout à fait réussir ça avec du nucléaire si les nations le souhaitent et qu'on peut tout à fait aussi faire ça sans nucléaire si les nations le souhaitent. Et là, je suis resté au niveau national, mais il faut descendre à un niveau beaucoup plus granulaire. Si on reste sur la France et aborder les questions des mobilités, je participais plutôt à l'échange sur la France pavillonnaire, qui était d'ailleurs très intéressant. Le système de mobilité dans une ville comme Paris, pour que ce soit vraiment écolo, ou dans un centre-ville comme Lille ou Lyon, c'est un modèle dans lequel il n'y a quasiment pas de voitures. Et les quelques voitures qui restent sont très petites, très légères, partagées pour des personnes en situation d'handicap ou pour des gens qui doivent se déplacer à 3 heures du matin parce qu'ils ont un métier qui l'oblige à le faire. Donc une ville quasiment sans voiture. Dans le village de Moutier-en-Cinglais, 380 habitants dans le sud du Calvados, il y aura forcément, pour 380 habitants, il y aura forcément une cinquantaine, une soixantaine de voitures, les plus petites possibles et toutes électriques. Et donc, même en France, on va de fait trouver à l'échelle d'une vie différentes manières de réussir la transformation écologique. Pourquoi j'insiste sur ça ? Parce que c'est comme ça qu'on contribue à changer le monde. C'est parce que les Brésiliens et les Indiens, ils ne sont pas plus bêtes que nous. Ce qui marche chez nous, ils vont le regarder et ils vont choisir d'importer les ingrédients qui leur semblent pertinents. Et ils vont les adapter, les mettre à leur sauce. Et ils vont même développer des manières brésiliennes et des manières indiennes de réussir. Et pour connaître un peu l'Inde, le Kerala, qui est la partie sud du pays, n'ont pas du tout les mêmes enjeux que New Delhi, qui est une ville hyper polluée, hyper dense, etc., etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va réussir à la fin à faire une révolution énergétique et écologique mondiale. Mais nous, notre rôle en Europe, c'est de continuer à tester, de continuer à échouer aussi, parce qu'on apprend beaucoup des échecs. Et autant... je pense qu'on n'a pas beaucoup de leçons à donner aux Indiens ou aux Brésiliens sur des trucs qu'ils devraient faire. Autant, c'est une très très bonne idée de partager avec eux nos échecs. Parce qu'a priori, un truc qui n'a pas marché chez nous, il y a de fortes chances que ça ne marche pas chez eux non plus. Ce qui permettrait d'ailleurs aussi d'avoir un dialogue un peu moins colonial, puisqu'en fait, on vient chez eux pour leur dire tous les trucs mauvais qu'on a fait. Ce qui change l'échange. Un mot pour répondre à la question de Pauline sur Rosatom, qui est une question qu'on a pu du coup débattre dans la table ronde précédente. Sur le fond de la dépendance de l'industrie nucléaire ou des industries nucléaires européennes à Rosatom, donc l'industrie russe, il y a une véritable opacité et complexité des chaînes d'approvisionnement. Et moi, même en cherchant à mieux comprendre le sujet, je n'ai pas aujourd'hui une compréhension suffisante pour me dire à quelle vitesse on peut réduire et sortir de notre dépendance sur quel élément de la chaîne de valeur. Et en tant qu'élu, je reçois des informations hyper contradictoires. Et quand bien même il y aurait une clarté sur ce qu'on peut faire, la Commission européenne y travaille. Politiquement, il y a les Hongrois qui bloquent. Donc toute sanction demande l'unanimité, donc c'est mort. Pour la principale raison que Orban, au-delà d'aimer Poutine, il a besoin du nucléaire russe pour la production électrique en Hongrie, donc c'est Pax 2 qui est le nouveau réacteur nucléaire russe qui a permis du coup à Orban aussi de s'endetter auprès de la Russie. Et en France, on a aussi un petit problème là-dessus. Le symbole de ce problème-là, c'est un homme qui s'appelle Henri Proglio, qui était PDG d'EDF de 2009 à 2014, qui siège au board de Rosatom, donc au conseil de consultatif de relations internationales, je crois, de Rosatom, et qui, en mars 2022, alors qu'on découvrait les crimes de Boutcha, a dit qu'il allait continuer à siéger dans le conseil de Rosatom, quoi. Je vois que tu es mieux informé que moi. Un tout dernier point pour être très court, et c'est juste pour parler. Est-ce que vous avez entendu parler du vote au Parlement européen sur les steaks végétaux ? Oui. Moi, je trouve ça fascinant de ce que ça nous dit. Ça nous dit, donc, tout le discours anti-écolo, c'est un discours de « faut simplifier ». Et avec ce débat sur l'appellation, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est Céline Imar. Céline Imar, c'est la vice-présidente du Parti Les Républicains. Elle est aussi députée européenne. Qu'est-ce qu'elle faisait avant d'être élue ? Elle était lobbyiste pour la FNSEA. Et elle a déposé un amendement pour interdire, pour faire de la cancel culture, littéralement, hein, pour interdire l'usage de l'appellation steak végétaux, burger végétal, etc., etc. Parce que c'est vraiment la priorité en ce moment.
Je me permets, dans un rapport qui s'appelait Renforcer l'agriculteur dans la chaîne de valeur alimentaire. Dans un rapport qui parlait de comment on donne plus d'argent aux paysans dans toute la chaîne de valeur, sa priorité, ça a été ce que vient de dire Thomas.
Donc, ça n'avait rien à voir avec le pâté, pour prendre une métaphore qui n'est pas végétarienne. Pâté végé, c'est vrai, t'as raison. Ce qui est intéressant là-dedans, et moi, c'est comme ça que j'en ai parlé à mes amis, on va dire, pas amis, mes copains de la droite allemande. Je suis allé les voir et je leur dis... Mais expliquez-moi, pourquoi est-ce que la droite allemande voudrait que l'Union européenne surréglemente des pratiques de marketing et de publicité d'entreprises privées qui innovent sur des nouveaux marchés comme le steak de lentilles, etc. Cet argument-là, il a marché sur la droite allemande. La droite allemande, elle a voté contre cet amendement. Donc la droite allemande, franchement, les sujets sur lesquels la droite allemande vote avec David et moi, bon, il y en a plein, mais sur ces sujets-là, pas trop. Et donc là, ça a été le cas. Les Verts n'ont pas du tout été divisés, ils ont été quasiment, je pense, tous unis, ou même tous unis pour voter contre. La droite européenne, les centristes européens et même les sociodémocrates, ma famille politique, s'est divisée là-dessus. Malheureusement, à la fin, l'amendement est passé. Qu'est-ce qu'on retient de ça ? Moi, je retiens de ça que le discours de la simplification, c'est l'arbre qui cache la forêt, évidemment qu'il ne veut pas simplifier. Puisque en faisant ça, ils ont complexifié le droit européen sur un truc sur lequel en fait il n'y avait pas de problème. C'est ça, c'est l'arbre qui cache la déforestation. Donc voilà, pour terminer peut-être sur un mot, je ne sais pas si tu... J'ai une phrase de conclusion si tu veux. Mais...
Oui, bah, de toute façon, il nous reste 5 minutes, donc je vous propose de prendre une ou deux minutes chacun et de conclure, et puis on sera...
Bah, du coup, pour conclure, dans quel moment on est si on dézoome ? On est dans un amendement divers politique pour l'écologie. C'est beaucoup plus compliqué de faire avancer les questions écologiques aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Est-ce que c'est plus compliqué parce que les gens ne le veulent pas ? Les citoyens ne le veulent pas ? Non. Ce que David disait sur la loi du plan en est un exemple. Oui, par contre, la demande citoyenne d'action écologique est moins visible. Elle est moins visible aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2018 quand il y avait des millions de jeunes qui manifestaient pour le climat. Mais ce n'est pas parce qu'elle est moins visible qu'elle a disparu. En un sens, la majorité silencieuse du pays est écolo. Donc c'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est une partie de l'élite politique et une partie de l'élite économique. Une partie de l'élite économique qui trouve que, franchement, on allait trop trop loin là, sur le pacte vert, parce que vous comprenez... Alors, c'est un mec de BMW qui m'a expliqué ça, je trouvais ça marrant. Il me disait, vous comprenez pas, avec toutes les normes environnementales qu'on a, on est à l'os, on est obligé de prévoir des plans de licenciement à BMW, et tout et tout. Puis moi, je l'écoutais, je fais oui, oui. Puis je cherche sur mon téléphone et je tape buyback program, qui est le mot en anglais pour dire rachat d'actions. Donc rachat d'actions, c'est quand une entreprise rachète des actions pour détruire de la valeur pour elle et augmenter du coup les ressources pour les actionnaires. Et je dis, ah, mais c'est vrai que vous venez d'annoncer un programme de rachat d'actions de 2,5 milliards d'euros. Alors, moi, je ne suis pas capitaine d'industrie, hein, mais si votre boîte elle est à l'os, vous ne faites pas un programme de rachat d'actions de 2,5 milliards. Donc aujourd'hui, le lobby du diesel, il ose tout. parce qu'ils voient qu'il y a cette majorité droite et extrême droite au Parlement européen, et ils se disent, bah, pourquoi on s'auto-censurerait ? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas au bout pour demander tout ce qui permet de maximiser le profit trimestriel ? Et j'insiste sur le mot trimestriel. Ils ne sont pas dans une logique de profit à 5-10 ans, ils sont clairement sur des trucs à très 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 court terme. Et il y a l'élite politique dont on a déjà parlé à cause de cette alliance droite-extrême droite. Je ne sais pas comment est-ce qu'on sort de ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'on sort de cet hiver politique. Par contre, je sais qu'on en sortira. Puisque celles et ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'écologie depuis des décennies savent que ce n'est pas la première fois qu'on a ça. Moi, ça me fait penser, après le Grenelle de l'environnement, tout ce que fait Borloo, où il y a des vraies avancées, au fameux « l'environnement, ça commence à bien faire » de Nicolas Sarkozy. Et l'écologie n'est pas morte en 2010. Et donc, on vit ce moment-là qui est un moment d'hiver, et notre responsabilité à nous, qui faisons partie, disons, des familles écologistes au sens très large du terme, c'est de faire deux choses. La première, et c'est notre action quotidienne au Parlement européen, mais on a aussi besoin de vous dans la société civile et les citoyens pour faire ça, c'est de défendre. C'est comme au rugby, quand en face ils attaquent, il faut aller dans les rucks, faut récupérer le ballon. Il faut défendre pour les empêcher de marquer des essais. Parfois, ils vont marquer des buts, comme là sur les steaks végétaux. Mais il faut qu'on continue à défendre, parce que tout point qu'ils n'arrivent pas à marquer, eh ben, c'est une victoire défensive, mais victoire quand même, pour la transformation écologique de notre société. Et deuxièmement, il faut planter des graines. Parce qu'après l'hiver, vient le printemps, et donc il y aura un moment, à nouveau, où on pourra avancer, et dans ce cas-là, il faudra qu'on aille très très vite, très très loin, pour rattraper le retard qu'on est malheureusement en train d'accumuler en ce moment.
Merci Thomas. David, quelques mots pour conclure ?
Ouais, mais très vite, parce que bon, d'abord, merci de votre écoute et des échanges. Pour repartir voilà, sur ce que dit Thomas, effectivement, après backlash, il peut y avoir un backlash du backlash. Parce que la critique, et c'est ce qui s'est passé avec la loi du plomb d'ailleurs, c'est que les gens se sont dit, non mais là quand même, ça va trop loin. Donc ça, il y a ça. Après, moi, je reste quand même... Je suis d'une nature optimiste, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de ne pas l'être. Mais je pense quand même qu'on est dans une conjonction de menaces. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le risque démocratique ou la menace antidémocratique. Or, les modèles qu'on souhaite, nous, de politique solidaire et écologique, elles nécessitent notamment la capacité de l'action collective et d'une société qui arrive malgré tout à dialoguer, avoir des espaces d'interaction pour pouvoir avoir la confiance nécessaire pour mener des actions de transformation. Or, on est dans un moment de fragmentation extrêmement profonde de nos sociétés. Je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, mais avec les systèmes de communautés qui se construisent, où en fait on vit dans des mondes parallèles qui ne s'échangent plus, qui ne dialoguent plus. Pendant longtemps, le débat politique, c'était, bon, voilà, on sait à peu près où on vit, c'est quoi le constat, et il y avait une dispute sur qu'est-ce qu'il vaut mieux faire. Là, on a un problème supplémentaire, c'est qu'il n'y a même plus possibilité d'être d'accord sur le point de départ. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le déni climatique, etc. Mais bon, il y a des gens qui le font de mauvaise foi, mais il y a des gens qui profondément pensent ça. Et donc là, on a quand même une difficulté qui est de redéfinir un espace, une place publique, un espace de débat public apaisé pour pouvoir opposer les débats auxquels on est confronté. Or, on voit bien, mais il suffit de voir ce qui se passe depuis quelques jours, quelques semaines en France, où en fait cet espace-là, il est considérablement haché, fracturé, brutalisé. D'où un préalable pour moi qui me semble essentiel, et franchement, moi, c'est... C'est une position que j'ai jamais défendue dans mon parcours militant écolo depuis 25 ans. C'est la question de l'unité. Pas la question de l'unité pour se faire plaisir, mais la question de fermer des fronts. En fait, tu parlais de défense. En fait, pour pouvoir aller à la contre-attaque, il faut aussi fermer des fronts. Parce qu'on ne va pas pouvoir tenir 36 sièges à la fois. Donc fermer des fronts, c'est-à-dire ceux qui sont à peu près d'accord sur un certain nombre de sujets et d'analyses du monde et de ce qu'il faudrait faire, il faut vraiment réussir à être le plus groupé possible. Être en capacité ensuite de définir des partenariats et des alliances, y compris avec des gens qu'on n'aime pas et qu'on continuera à pas aimer, mais qui, si on n'est pas avec eux, c'est les autres qui gagnent. Et dernier élément, par rapport là plus spécifiquement à la question de l'écologie, c'est d'être plus explicite, je vais être un peu trivial, sur au fond qu'est-ce qu'on y gagne. Parce que les gens, ils comprennent bien, oui, ce qu'on perd si on n'en fait pas. Ça, OK. Donc, on a compris. C'est en ça que la société, moi, je disais que je milite depuis 25 ans, honnêtement, l'opinion publique sur la question écolo, elle est considérablement plus conscientisée. Et quand je dis ici, pas qu'en France, en Europe et quelque part dans le monde, par rapport à il y a 25 ans, et j'ose même pas imaginer par rapport à il y a 50 ans. Donc l'idée de l'écologie, elle a avancé. Et donc ce que les gens savent qu'ils vont perdre si on n'en fait pas, ça ils ont compris. Il y a une chose et qui est déterminante dans le domaine d'activité qui est le nôtre, qui est la politique, c'est oui, mais qu'est-ce qu'on va y gagner ? Et là, il faut qu'on arrive à être plus explicite. Avec, bon, on peut parler de, je sais pas, de 13e mois ou 14e mois écolo, c'est l'ordonnance verte à Strasbourg. Enfin, des choses qui sont à la fois concrètes et... En fait, c'est quoi l'imaginaire de société où, dans un moment où il y a plus en plus de perdants de l'histoire, comment l'écologie permet d'avoir plus de gagnants ? Et ça, une fois qu'on a dit ça, faut le décliner. Mais pour moi, c'est les deux pistes pour pouvoir être à la fois dans un moment de stopper l'hémorragie et, j'allais dire, de reconquête, l'expression n'est pas terrible, mais en tout cas de contre-attaque et de portage d'un imaginaire positif. C'est ça un peu le double défi qu'il va falloir gérer en même temps, pas au sens où l'autre l'utilisait, dans les temps qui viennent.
Merci David, merci pour vos questions. Et ben...